Commencer cette soirée. Je vous remercie d'être là et je remercie particulièrement le personnel de l'espace Mendès France, Madame Guiton et puis les techniciens qui sont là. Je remercie tout particulièrement Monsieur Châtel d'être avec nous ce soir. Vous connaissez Jalmalve, donc je ne reprends pas les objectifs de Jalmalve. Par contre, je voudrais vous dire que parmi les missions de Jalmalve, c'est faire de l'information, et notamment nous sommes dans la semaine des journées mondiales de soins palliatifs, et c'est la raison pour laquelle Jalmalve s'est toujours mobilisée pour les soins palliatifs. C'est le cœur même de notre mission. Donc, Jalmalve Poitiers s'est engagé en partenariat avec les soignants de l'unité de soins palliatifs de Poitiers et des étudiants de l'enseignement supérieur de management à organiser les journées mondiales de soins palliatifs à Poitiers. Alors, les programmes sont à votre disposition si toutefois vous n'en avez pas encore. Où sont détaillées toutes les activités qu'il va y avoir. C'est-à-dire que demain soir, au CGR, il y a le film « Ma compagne de nuit » à 19h, au CGR Castille, je précise. Et puis, vendredi après-midi et samedi toute la journée, enfin de 10h jusqu'à, on va dire, 17h, 18h, Nous serons donc sur la place publique, place Leclerc, où il y aura un stand de l'unité de soins palliatifs, un stand Jalmalve, un stand Vivre son deuil et un petit coin pour présenter des livres pour enfants. Donc vous êtes invités à y participer et à en parler autour de vous de façon à venir. Ensuite, vendredi soir, il y a une pièce de théâtre qui a été réalisée par Julien Séchaud qui traitera autrement les questions difficiles, donc il est difficile de parler comme ça, il le traitera à travers le théâtre. Et puis, nous aurons aussi la chance d'avoir la présence d'une infirmière qui est clown dans une unité de soins palliatifs et qui viendra mettre une touche à travers les émotions qu'on pourra ressentir et dédramatiser certaines situations. Voilà, je crois que c'est important d'aborder d'une autre manière ces questions difficiles de fin de vie et notamment de parler de la mort. Donc les soignants et les bénévoles seront là pour vous écouter, vous informer et témoigner. Alors maintenant, on en vient à notre conférence de ce soir et la raison pour laquelle vous êtes là. Donc au Congrès national de Jalmalve à Marseille cette année, nous avons découvert Monsieur Châtel, qui a fait un exposé de qualité. Et donc, ce soir, nous avons la chance de l'entendre. Ce soir, Monsieur Châtel va tenter de nous consoler et peut-être faire de nous des consolateurs. Donc, voilà une mission. Alors, périlleuse, oui, effectivement. Alors, avant de commencer la conférence proprement dite et de passer la parole à M. Châtel, je voudrais vous dire que, comme à chaque fois, nos conférences sont gratuites. Donc, j'en appelle à votre générosité. D'ailleurs, on a une petite boîte, on ne va pas faire la quête, elle sera à l'extérieur, sur la table. Ou alors, vous pouvez adhérer à notre association. C'est une façon de nous aider, puisque les adhésions sont pratiquement les seules ressources de notre association. Alors bien sûr, cette soirée, l'exposé riche de Monsieur Châtel, ne va pas empêcher l'échange qu'on peut avoir. Donc vous pouvez poser les questions que vous souhaitez. C'est important que cette soirée soit aussi un échange et que vous soyez libre de poser les questions. Voilà, maintenant il est temps que je vous laisse la parole, Monsieur Châtel. Et merci encore.
Merci. Merci de m'avoir invité pour venir aborder avec vous un thème qui est un thème qui nous concerne tous, finalement, celui de la consolation. C'est un joli thème En même temps, c'est un thème triste, puisque dès qu'on évoque l'idée de consolation, on évoque quelque part une idée qui aurait une tristesse. Donc on va essayer ensemble de naviguer entre cette tristesse qui est à l'origine de la consolation et la joie qui peut aussi y avoir derrière le fait que la consolation voilà, pourrait peut-être, mais j'emploie des mots prudents encore, que la consolation pourrait peut-être éteindre quelque chose de la tristesse. C'est même pas sûr, on va voir. Donc, comme vous l'avez signalé d'ailleurs, je vais essayer de ne pas me laisser emporter par ma propension à parler beaucoup, et j'aimerais qu'on puisse avoir des échanges après, parce qu'on n'est pas sur un sujet théorique. Je vais vous en parler bien sûr en essayant de vous donner des repères, des sujets, matières à réflexion, mais c'est absurde d'envisager de ne parler de la consolation que sous l'angle théorique. On n'est pas dans un amphithéâtre ou dans une salle d'université, on n'est pas là pour brasser des savoirs, on est là pour essayer de toucher du doigt quelque chose qui fait partie de l'expérience saisissante de l'être humain. Alors cette expérience, elle nous touche depuis notre enfance jusqu'à la fin de notre vie, puisque nous sommes des êtres humains sensibles. Donc à un moment donné ou à un autre, eh bien, on a été durement ébranlés, fragilisés, de notre petite enfance jusqu'à notre maturité. Donc voilà, après j'aimerais qu'on puisse avoir ce temps de partage ensemble autour de choses un peu concrètes malgré tout. Alors en deux mots, vous dire quand même de quelle posture, de quelle position je parle, ça vous aidera à me situer un peu. Je suis d'abord bénévole en soins palliatifs. Les choses ont commencé comme ça pour moi. J'ai eu un jour envie d'aller à la rencontre des gens qui sont durement éprouvés dans la vie et qui me semblait qu'ils avaient besoin d'une présence à leur côté. Donc je me suis un peu documenté. J'ai eu la chance d'entendre des gens qui m'ont parlé des soins palliatifs. Ça m'a donné envie. Vous écrirez envie en un mot comme en deux. J'ai senti quelque chose de vivifiant derrière et donc je suis devenu bénévole. Et puis comme une fois que j'étais bénévole, je me suis mis à me poser tout un tas de questions. Alors j'ai fait une thèse de doctorat en sociologie, je suis devenu sociologue, mais ce n'était pas mon métier d'origine. Puis j'ai tellement aimé ce que je travaillais comme sujet que c'est devenu mon métier. Et puis de fil en aiguille, je me suis mis à élaborer tout un tas de réflexions, un tas de témoignages, un tas de choses. Et puis après, je suis devenu écrivain. Alors vous voyez comment les vies se font d'une manière un peu bizarroïde. Et le thème de la consolation, c'est un thème que je n'avais pas abordé en tant que tel. Voilà, je parlais du thème de l'accompagnement, mais le mot consolation n'était pas un mot qui s'était imposé à moi. Et puis, à force de prendre la parole, d'écrire, j'ai été amené à rencontrer un monsieur qui a eu envie de faire un ouvrage consacré au thème de la consolation. Alors, on en a un peu discuté et il avait un projet qui m'a bien plu. Alors, ce monsieur, le nom vous est connu, c'est Jacques Attali, qui a réuni autour de lui une vingtaine de personnes il y a 2 ans pour les faire parler à partir de leur place du thème de la consolation. Il y avait des religieux, il y avait des gens qui avaient perdu un proche, il y avait des gens qui faisaient de l'accompagnement. Donc il y avait des gens très célèbres dans tout cet aéropage. Et puis moi, j'avais ma petite place au milieu d'eux parce que j'étais bénévole et que j'avais sans doute quelque chose à dire en tant que bénévole. Et je trouvais que cette place était intéressante parce que la consolation n'est pas l'apanage des grands esprits, c'est ce qui est attendu de la part de chacun d'entre nous dans son activité la plus commune, la plus ordinaire. Et donc, une parole de bénévole dans ce cadre-là, ça avait sa place. Alors, je vous le signale, j'en ai apporté quelques-uns, je vais un peu m'y référer de temps en temps. Donc, c'est un ouvrage qui est composé d'un CD où il y a des conférences, parce qu'il y a eu des enregistrements sur France Culture, et puis après, de commentaires de la part des gens qui ont donné une interview. Et dedans, vous y retrouverez des gens comme Malek Chebel, comme Mathieu Ricard, comme Marie de Henzel, comme Eric Orsena, Boris Cyrulnik. Et chacun avait quelque chose à dire. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter sur la consolation? Et donc, je suis parti là-dessus de mon expérience d'accompagnement. Alors, je vais m'y référer, mais le thème de la consolation, il ne faudrait pas le réduire simplement au thème de la fin de vie. Bien sûr que la mort, la fin de vie, la maladie grave sont des circonstances qui appellent une consolation sans doute plus importante. Bien sûr que le deuil et a une consanguinité, est une des causes premières de la consolation. Mais il ne faudrait surtout pas le réduire à ça, parce que replongeons-nous dans notre histoire. Moi, aussi loin que je remonte, la première fois que j'ai eu besoin d'être consolé, je crois, c'est quand j'ai fait mes premiers cauchemars. Et ce que je vivais à ce moment-là était tellement tragique que ce n'était pas superflu de chercher à être consolé. Alors, avec quelques décennies de recul, je regarde mes cauchemars avec une tendresse amusée, Mais quand j'évite de me prendre un peu trop de manière ironique, ces cauchemars, ils étaient bien réels, ils étaient bien profonds et il fallait les prendre au sérieux. Et j'ai eu la chance d'avoir eu dans mon entourage des gens qui les ont pris au sérieux. Donc, on peut prendre appui sur l'expérience de la fin de vie et la maladie grave, pour comprendre quelque chose de la consolation, mais c'est un thème beaucoup plus sérieux que ça, beaucoup plus large, beaucoup plus vaste que ça, la consolation. Alors, le point de départ du propos, c'est quand même de partir de l'idée que vous partagerez, j'espère, que nous sommes tous fragiles, que c'est notre nature d'être humain, d'être fragile, que le propre de l'homme, c'est d'être fragile, hein, d'être vulnérable. Alors, on parle aujourd'hui beaucoup de vulnérabilité, mais on en parle mal, parce qu'on réserve la vulnérabilité aux gens qui sont déjà blessés, les SDF, les gens accidentés, les divorcés, les détenus qui sortent de prison, des gens qui se retrouvent en rupture, ébranlés, bousculés, effondrés par une circonstance de leur vie. Mais il faut prendre garde à ne pas enfermer la vulnérabilité chez les seuls gens qui sont déjà blessés, qui sont déjà éprouvés. D'abord, ça ne veut pas dire ça, vulnérabilité. C'est un substantif qui veut dire la possibilité d'être blessé. Ce n'est pas le fait d'être blessé. Hein? Être vulnérable, ça n'est pas être blessé. C'est pouvoir l'être à tout moment. Donc à ce titre-là, nous sommes chacun d'entre nous hautement vulnérables. Et pourquoi sommes-nous hautement vulnérables? Parce que nous sommes des êtres sensibles. Alors c'est notre force d'être sensible, parce qu'on peut mesurer qu'une personne qui ne ferait pas droit dans sa vie à sa sensibilité, bien... Il vaudrait mieux changer de trottoir. Hein. L'histoire est pleine de monstres qui ont posé des actes parce qu'ils étaient devenus insensibles. Donc ça, c'est véritablement notre lot commun à tous. C'est notre force et notre faiblesse d'être sensible. Parce que, à tout moment, nous pouvons nous retrouver malmenés. Alors, sur les cartons de déménagement, vous avez remarqué, il y a toujours marqué « fragile ». Et puis, sur le même carton de déménagement, il y a « haut » et « bas ». Et bien voilà, je trouve que ça résume assez bien ce que c'est que la vulnérabilité. C'est fragile, nous sommes fragiles, nous sommes un peu enveloppés, il y a quelque chose qui essaye de nous protéger, qui s'appelle un carton, mais qui n'est pas très solide. Et il faut bien marquer dessus « fragile » pour éviter que, malencontreusement, on ne vienne à donner des coups dans le carton et abîmer ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, quand on est vulnérable, fragile, et ben on passe par des hauts et par des bas. Alors autant être dans le bon sens, d'ailleurs c'est pour ça que c'est marqué sur le carton, c'est pour être sûr qu'on ne va pas le mettre à l'envers. Mais ça fait partie de cette condition de passer par des hauts et par des bas. Et puis quand même, généralement, on écrit fragile sur le carton qui contient les objets de valeur. Vous avez remarqué que les trucs qui n'ont aucune valeur, on ne met pas fragile dessus. Les choses qui sont aisément remplaçables, il n'y a pas besoin de mettre fragile dessus. Donc cette attention particulière à la fragilité, c'est celle qui nous anime, qui certainement nous réunit aussi ce soir-là. Mais c'est une attention qui ne va pas de soi dans la société contemporaine. La fragilité n'est pas valorisée comme on pourrait espérer qu'elle le soit. Alors j'ai dit le propre de l'homme, c'est d'être vulnérable. Est-ce que le propre de l'homme, c'est de rester, c'est de demeurer vulnérable? Ça, c'est une première question. Parce qu'on peut penser la consolation comme étant le fait d'éteindre, de faire disparaître la souffrance. Auquel cas, on dirait, le propre de l'homme, c'est d'être vulnérable, mais c'est de ne pas souffrir démesurément et dès qu'il souffre, de faire en sorte de ne plus souffrir, de retrouver un état de non-souffrance. Donc il faudrait mettre en œuvre tout un tas de choses, des actes, des gestes, pour faire en sorte que l'être humain qui est éprouvé, qui souffre, ne souffre pas. Ça, c'est la première attitude qui consiste à, quand un enfant fait un cauchemar, aller le voir en lui disant « Mais non, c'est rien. Oui, allez, mon petit chéri, il n'existe pas, le dragon, tu vois, et puis tu tombes dans le vide, mais ça n'existe pas, c'est pas réel, tout ça. Allez, tout va bien. » Vous voyez, la tentation qui consisterait à vouloir faire disparaître presque prématurément, dans un mouvement rapide, l'épreuve de la souffrance. Mais non, c'est rien. Mais l'enfant, il sait très bien, nous savons très bien, on n'a pas besoin de faire un grand effort pour se souvenir de nos cauchemars, on en fait peut-être encore d'ailleurs. On sait très bien que quand on fait un vrai cauchemar, ça ne nous est d'aucune utilité que d'entendre quelqu'un à côté de nous qui nous dit « mais non, c'est rien. Rendors-toi, ça va passer. Regarde, je suis là, c'était un cauchemar, ça n'est pas réel et tout, ça ne nous est d'aucune utilité. » Donc, il y a une deuxième attitude sur laquelle je m'appesantirai davantage qui consiste à ne pas nier que c'était quelque chose, ce cauchemar. Que peut-être il n'était pas réel au sens matériel, palpable, vécu, mais quand même, il était réel au sens vécu intérieur. Il y a eu une réalité. Elle n'est pas tangible, mais il y a eu une réalité psychique, forte. Alors ça, c'est la première question. Est-ce que la vulnérabilité, le propre de l'homme est vulnérable? Est-ce que l'ambition, c'est de faire disparaître sa souffrance? La deuxième question, c'est que si le propre de l'homme est d'être vulnérable, est-ce que son destin est d'y faire face tout seul? Est-ce que nous serions dans un monde où chacun d'entre nous aurait la responsabilité de trouver des réponses à ses problèmes tout seul? Vous voyez, du genre, je me remonte les manches et je vais m'y affronter. Alors, à partir de ça, face à cet être éprouvé, eh bien, on a deux manières de penser, on va prendre un peu de hauteur peut-être, deux manières de penser l'homme aujourd'hui, ce qu'on appelle l'anthropologie, le regard qu'on porte sur l'homme. La première, ça consisterait à dire, par malheur, nous ne sommes que des hommes. Et quel dommage que nous soyons si sensibles. Quel dommage que nous soyons si fragiles. Donc il faudrait trouver un moyen pour que nous soyons un peu plus résistants. D'une certaine manière, c'est ce que l'homme s'est évertué à faire depuis qu'il était homme préhistorique. Il s'est appliqué à survivre, à devenir plus fort, à trouver les moyens de résister. Et quand il était ballotté, balancé, mis à terre, il essayait de se redresser à la force du poignet. Donc nous avons construit un système de pensée millénaire, fondé sur la nécessité de survivre et qui valorise l'homme fort. Alors ça a abouti au fait que faut pas pleurer. Alors les femmes, on leur permet de pleurer. Les enfants aussi, mais les hommes, non. Vous voyez ? Donc c'est quand même, ça a été présent quand même extrêmement longtemps. Ça a abouti au tournant du 19e et du 20e siècle à la pensée prométhéenne véhiculée par Nietzsche, entre autres celui du surhomme, c'est-à-dire celui qui se transcende en permanence, qui ne se satisfait pas de sa condition d'homme et qui va s'efforcer de repousser ses limites toujours plus loin, toujours plus haut. Ça a donné lieu à la devise des Jeux Olympiques, Pierre de Coubertin aussi. Cette observation que l'homme est un animal performant qui a des ressources fortes en lui, voire un génie même pour trouver des solutions, inventer. Donc il a des ressources physiques, des ressources psychiques. Et c'est ça qui, quelque part, le distingue aussi de l'animal. Si on prend l'évolution darwinienne, à un moment donné, il s'est redressé, il s'est distingué, il a développé son cerveau, il a opposé son pouce à ses quatre doigts. Bon, il y a eu toute une évolution qui est fondée sur le fait de l'idée de l'amélioration de l'homme. Alors ça, c'est quand même la société dans laquelle on a longtemps fonctionné. Et j'aimais bien parce que dans ce livre, Boris Cyrulnik, qui étudie quand même attentivement ces phénomènes, nous dit, mais pendant très longtemps, on a valorisé l'agressivité. L'agressivité était un facteur de virilité, de puissance, de valeur. Voilà. Il fallait être plus fort que le voisin. Quoi. On encensait celui qui gagnait son duel à l'épée et on n'avait aucune considération pour celui qui le perdait. Donc la valeur de la société, c'était l'effort et à un niveau plus ou moins conscient, les femmes étaient invitées à choisir des hommes, des géniteurs forts qui avaient tous les symboles extérieurs de la puissance. Parce que derrière, on engendrerait des lignées qui peut-être porteraient les mêmes caractéristiques. Alors vous voyez que ce modèle-là, il ne fait pas beaucoup de place pour les faibles. Et il ne fait pas beaucoup de place pour les fragiles. Et on avait tendance à assimiler la fragilité et la faiblesse. Aujourd'hui, on n'est plus dans le même mode, mais je vais y revenir un peu plus. Du coup, dans cette lecture anthropologique qui est fondée sur, pour le faire un peu rapidement, sur toute la mythologie grecque autour de Prométhée et de la naissance de l'être humain, savoir que, vous le savez sûrement, ou je vais vous le rappeler, que dans la mythologie grecque, l'être humain n'a pas été créé par les dieux, ni même par un dieu. Il a été créé par un titan, un demi-dieu qui est Prométhée, qu'il a façonné à partir de la glaise. Et puis très vite, les dieux de l'Olympe et Zeus le premier a pris ombrage du fait qu'il y avait un être humain qui commençait peut-être à développer trop d'autonomie et à présenter un réel danger. Donc les dieux de l'Olympe se sont opposés à l'être humain. Et l'être humain soutenu par Prométhée, eh bien, en se transcendant lui-même à chaque fois, accède à une dimension supérieure et finira, dans la mythologie grecque, dans le statut de demi-dieu, de héros ou de demi-dieu. Donc la mythologie grecque est fondée sur l'idée que l'être humain doit transgresser les interdictions divines ou les interdictions de la nature, en tout cas les limites qui lui sont posées, transgresser pour accéder à une nouvelle condition de lui-même. Donc l'idée qu'il y aurait toujours une amélioration, un perfectionnement. Alors, dans ces conditions, la blessure, bah, c'est un scandale. La vulnérabilité, c'est un scandale, c'est une offense, c'est une perte de chance, c'est un danger. Scandale, c'est l'étymologie grecque du mot scandale, scandalon, ça veut dire pierre d'achoppement. C'est donc la vulnérabilité, c'est ce qui peut faire trébucher l'homme. La pierre qui se tient sous son chemin et qui le met à terre. Mais il va falloir très vite qu'il se redresse, qu'il se relève. Aujourd'hui, nous vivons encore dans ce schéma de pensée-là qui est très présent, qui est peut-être plus présent que par le passé, je ne sais pas, on va en discuter. Mais quand on voit à quel point il est devenu obsédant de devoir tout réussir. Alors, il faut réussir ses études quand on est un jeune enfant. Après, il faut réussir sa vie amoureuse quand on est un adolescent ou un jeune adulte. Puis sa vie de couple quand on se marie, sa vie professionnelle, bien entendu. Et quand on n'a pas de métier, eh bien, il faut quand même réussir sa vie domestique en ayant des agendas désormais qui sont dignes de ceux des ministres. Vous voyez, il faut tout réussir, tout remplir. Il n'y a pas une minute qui doit être laissée vide. Et puis, dans les années 87, il y a eu un article retentissant dans la fameuse revue Science qui disait « Il faut aussi réussir son vieillissement ». Alors ça, c'était un nouveau pavé dans la mare. C'est-à-dire qu'avant, on se contentait de vieillir. Puis maintenant, il faudrait prendre en main son vieillissement. Et puis après, les soins, au même moment, à peu près, les soins palliatifs se sont intéressés aux plus faibles, mais on a détourné leur lecture en disant qu'il faut aussi réussir sa fin de vie. C'est-à-dire qu'il y a une bonne manière de réussir sa fin de vie. C'est le modèle de la fin de vie apaisée, sans chagrin, sans tourment, en ayant mis ses affaires en ordre, mais comme si on pouvait mettre tout ça sous contrôle. Hein. Il y aurait des recettes, des clés, enfin que sais-je. Mais il y aurait une manière de réussir sa fin de vie. Et puis après, la société nous a promu les contrats obsèques qui nous permettent de réussir à l'avance notre mort. Vous voyez, tout ça, c'est bien codifié aussi. Alors, j'ai bien organisé ma cérémonie à l'avance. Mes proches seront libérés des contingences matérielles. Tout est mis au coffre à la banque. Les papiers sont bien en place. Enfin, on a tout organisé, c'est parfait. Donc, la convention obsèque, là, c'est une manière de réussir sa mort. Et puis alors maintenant, depuis quelques années, une bonne décennie, on nous dit qu'il faut aussi réussir son deuil. Alors si vous n'avez pas fait votre deuil dans un délai de 3 mois, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est trop long. Et donc, vous êtes sûrement en train de faire un deuil pathologique. Donc on va vous recommander d'aller voir très très vite un psychiatre, prendre les médicaments qui vont avec, et on va vous demander de faire votre travail de deuil, comme si vous alliez vous mettre à la table de l'écolier pour faire votre travail, vos devoirs du soir, voyez. Et puis, on va vous demander de reprendre le travail, soi-disant que ça serait bon pour votre deuil. Vous voyez, toute la société est en train aujourd'hui de pousser jusque dans les points les plus extrêmes de la vulnérabilité, que sont la fin de vie, que sont le deuil, que sont aussi les domaines aussi intimes que la sexualité, que sont les relations amoureuses. Dans tous ces endroits-là, il faudrait être performant. Nous sommes aussi dans une société qui a du mal à consentir à la perte. D'ailleurs, nous avons des équipements électroniques grâce au numérique qui nous permettent de dupliquer à l'infini nos photos de vacances. Donc on en a 300 exemplaires en pagaille et nous ne perdons rien. Nous avons aujourd'hui les ressources technologiques qui nous permettent de ne rien perdre. Et puis, comme nous ne voulons pas non plus perdre nos capacités en vieillissant, fort heureusement, la technologie nous permet d'être appareillés. C'est bien parce que moi, qui bientôt aurai sans doute des problèmes d'audition, j'aurai un petit appareil sur l'oreille, ça sera très bien. Mais ça peut aller de plus en plus loin. Et au bout d'un moment, on ne sait pas si on n'aura pas des appareillages de partout au point qu'on ne sait plus quel est l'homme et quelle est la machine au milieu de tout ça. Mais tout ça pour ne rien perdre, y compris ne pas perdre nos capacités. Et c'est légitime. Parce que moi, si je commence à perdre un peu l'ouïe au bout d'un moment, je serai très embêté. Donc je serai heureux que des gens se soient creusé le cerveau pour créer des appareillages qui me permettent de tenir le coup, de compenser. Oui. Mais moi aussi, dans ce cas-là, ça veut dire que je m'inscris dans un schéma où je refuse de perdre. Dans cette espèce d'illusion qu'on pourrait tout garder tout le temps. Et que la vie serait une pente ascendante sans fin, sans déclin. Alors on a inventé le troisième âge, qui est cette pente où, bien qu'on soit en retraite, eh bien, on continue à être sur la pente ascendante. Et puis, on a qualifié le quatrième âge du moment où quand même ça décline un peu et on espère qu'il sera aussi rapide que possible et en tout cas qu'il ne viendra pas gâcher le paysage. Donc, pouvons-nous rêver que l'être humain serait finalement cet être qui ne perdrait rien, qui serait en amélioration constante? Le problème, c'est que ce n'est pas ça. C'est très joli, c'est très idéaliste. Ça, c'est très nécessaire de penser comme ça, parce que, petite aparté, mais moi, je suis content que les chirurgiens, aujourd'hui, se battent pour trouver des solutions pour guérir de mieux en mieux, que les biologistes aussi, vous voyez, que des gens se battent pour améliorer nos conditions de vie. Il ne s'agit donc pas de critiquer fondamentalement ce modèle-là. Il s'agit simplement de le descendre de son piédestal qui en fait aujourd'hui un lieu de culte. Pourquoi ? Parce que nous avons sinon une société dans laquelle nous désignons les forts et nous stigmatisons les faibles. C'est-à-dire dans cette assimilation du faible et du fragile, sur laquelle je reviendrai, qui est une assimilation fallacieuse. Et donc nous avons une société à deux vitesses. Tant que vous êtes au point, parfait, vous comptez. Vous comptez sur quoi ? Vous comptez sur vous. Vous comptez sur vous. C'est la société individualiste. C'est mon bonheur d'abord, mon plaisir. Et puis, il y a quand même un paquet de gens qui ne sont pas au point. Et on ne peut pas les stigmatiser parce que c'est chacun d'entre nous à un moment ou à un autre de sa vie qui, à un moment donné, trébuche. Fatalement. Alors, cette première représentation qui consisterait à dire par malheur nous ne sommes que des hommes parce que nous sommes fragiles et nous trébuchons, eh bien on va essayer de la retourner en disant et si c'était une chance d'être fragile, en quoi ça pourrait être une chance d'être fragile? Est-ce qu'on pourrait en venir à dire par bonheur nous ne sommes que des hommes? Vous voyez, retourner l'argument en essayant de comprendre que derrière la peine, derrière la détresse, il se tient quelque chose, une expérience, et que cette expérience n'est pas sans valeur. Alors qu'est-ce qu'elle pourrait bien avoir comme valeur qui ne serait pas simplement anecdotique dans notre société qui privilégie le beau, le fort, le jeune, le sain, mais qui serait une valeur subversive presque, qui vient rappeler sans arrêt que l'être humain qui ne serait que jeune, beau, fort et sain risquerait, à force de chercher à être un surhomme, à perdre de vue qu'il est un homme. Le surhomme, c'est par définition quelqu'un qui n'est plus un homme, puisqu'il cherche à s'élever au-dessus de ce que c'est qu'être un homme. Oui. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière, parce que c'est un propos sur lequel je reviendrai plus tard, donc je vais essayer de faire des échos. Dans ce mode de pensée où l'être humain devrait sans arrêt s'améliorer, on considère que la chute, la fragilité, l'épreuve doivent être corrigées, de sorte qu'on puisse rétablir la force antérieure. Voyez, vous avez été malade, on va faire cesser votre maladie, vous ne serez plus malade. Vous avez été licencié, on va vous accompagner, mettre un coaching, que sais-je, pour que vous trouviez du travail, et faire comme si l'épreuve n'avait été qu'une parenthèse. un moment malheureux, mais quelque chose qui est maintenant passé, un moment passager, éphémère. J'insiste sur ce mot de passager. D'accord. Alors, si nous retournons cette affirmation que par malheur nous ne sommes que des hommes, en par bonheur nous ne sommes que des hommes, qu'est-ce que ça nous invite à dire ? Eh bien, ça nous invite à dire que, déjà, ça nous invite à un principe de réalité, celui de constater qu'à un moment ou à un autre, nous sommes terrassés, effondrés. Parce que nous avons eu une peine de cœur, notre monde s'écroule. Parce que nous avons été licenciés, notre monde s'écroule. Parce que nous avons contracté un cancer, notre monde s'écroule. Parce que nous avons perdu un conjoint, un parent, un enfant, notre monde s'écroule. Et donc, ce sont des réels moments de mort psychique, où tout ce qui avait office de valeur avant est brutalement confronté à l'absurde. Et donc, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien sur quoi s'appuyer. L'être humain se trouve un temps, parfois longtemps, totalement désarmé. Et ce qui est grave, c'est que notre société ne nous y prépare pas. Refusant de voir cette fragilité fondamentale de l'être humain, elle ne nous y prépare pas. Alors être effondré, terrassé, c'est se trouver en situation d'appeler à l'aide, de crier. Ne serait-ce que parce qu'il nous reste au fond de nous ce réflexe de survie qui est hérité de ces combats incessants de l'homme depuis la nuit des temps pour survivre. Alors, cette nécessité de ne pas mourir, mourir de chagrin, mais mourir tout court, physiquement, biologiquement, nous oblige à pousser un cri et donc à faire sortir quelque chose de nous. Et donc, à nous obliger à sortir de nous. Je vous ai dit, dans le modèle prométhéen, l'être humain compte d'abord sur lui-même. Eh bien, dans la détresse, nous sommes tentés de compter d'abord sur nous-mêmes, parce que nous avons été bien conditionnés à ne pas aller embêter l'autre, parce que ça l'embête, notre chagrin, vu qu'il n'a pas sa place dans la société. Et puis à ne pas passer pour un faible en appelant à l'aide. Et il faut vraiment qu'on soit mis à terre de plus en plus bas pour oser appeler l'autre, sortir de notre réserve. Alors cet appel à l'autre, en forme de quête, il a une vertu. C'est que déjà, il y a quelqu'un qui va entendre cet appel. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être un soignant, ça peut être un bénévole, comme c'est le cas dans les associations comme Jeanne Malve. Il va entendre. Il va entendre une sollicitation. C'est le sens du mot appel, sollicitation. Et ça va venir le toucher à un endroit. Et c'est ce qu'on appelle la sollicitude. C'est le fait d'être touché. Touché par la fragilité de l'autre. Aucun d'entre nous n'est touché par la force triomphante de son voisin. On peut être admiratif, on peut être fier, impressionné. Mais touché, non. Et donc cet appel à l'aide, cette sollicitation, elle est génératrice de quelque chose, elle est génératrice d'une relation. Dans la fragilité, l'être humain, en appelant quelqu'un d'autre, initie une relation d'un autre genre. Voilà. L'enfant qui fait un cauchemar appelle sa mère à l'aide et elle vient. Et elle se tient là. Alors, ça nous invite à essayer de comprendre quelle serait l'attitude consolante face à quelqu'un. Alors déjà, au niveau de l'étymologie, moi j'aime beaucoup travailler sur les mots, donc j'y reviens autant que je peux. Dans l'étymologie, consolation, ça ne veut pas dire éteindre le chagrin. Ça vient de la contraction de deux mots, cum et solatio. Ça veut dire être avec l'autre dans sa solitude. Non pas venir abolir sa solitude, mais venir là où il est seul. Ne faisons pas dire au mot plus que ce qu'il veut dire. Donc on n'est pas sur le premier modèle qui consiste à dire « Allez, voilà, c'est fini, c'est passé, rendors-toi. » On est sur un modèle beaucoup plus modeste, beaucoup plus humble qui consiste à dire, comme le fait la maman auprès de l'enfant qui fait son cauchemar, consiste à dire simplement, je suis là. Voilà, je suis là. Tu n'es pas tout seul. Ce que tu vis, ça a existé. Le cauchemar, la maladie, le divorce, tout ça, ça existe, c'est réel. Mais tu n'es pas seul, cum solatio. Je suis là, cum, avec toi, dans ta solitude. À peu de choses près, c'est le même mot que compassion. Être avec l'autre dans sa souffrance. La compassion, ça ne fait pas disparaître la souffrance de l'autre. C'est bizarre, hein ? Ça serait confortable quand même qu'on ait comme ça une attitude humaine qui soit à ce point apaisante. Mais non, ça ne fait pas disparaître la souffrance, mais ça permet à l'individu de savoir qu'il n'est pas tout seul. Et là, on est dans quelque chose qui est extrêmement porteur de sens, porteur de richesse, c'est qu'au cœur de la fragilité, il y a une promesse de lien. Donc il y a une promesse d'entraide, donc il y a une promesse de société. On n'est pas face à des individus qui souffrent chacun dans son coin. Alors bien sûr, c'est un peu idéal parce qu'aujourd'hui, notre monde nous renvoie que les SDF au coin de la rue sont généralement tout seuls. D'ailleurs, ce qu'ils attendent en premier, ce n'est pas forcément qu'on les emmène dans un centre pour leur offrir une douche ou de l'alimentation. Bien sûr, ils en ont besoin, mais ce qu'ils attendent, c'est déjà qu'on les regarde. Qu'on les regarde. Alors, on commence là à toucher quelque chose de l'ordre de la consolation qui ne serait plus simplement faire cesser les pleurs ou faire cesser la souffrance. Parce qu'en réalité, quand on veut faire cesser les pleurs ou la souffrance en disant « c'est rien », ou quand on veut administrer massivement des doses d'antalgiques pour que la personne n'ait plus mal, je reviendrai sur le point de la douleur en particulier, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Est-ce qu'on cherche à soulager l'autre ? Ou est-ce qu'on cherche à s'apaiser soi-même parce que c'est insupportable de voir quelqu'un d'autre souffrir, parce que c'est insupportable de voir quelqu'un d'autre pleurer. Voyez ? Et qu'il faut que ça cesse. Bien, il y a les deux derrière. Il y a les deux. En réalité, quand on essaie de calmer l'autre, c'est aussi nos propres incapacités à regarder la fragilité en face que nous cherchons à faire disparaître. La fragilité de l'autre nous amène, et comme un scandale, en effet, c'est un scandale en ce sens où elle vient nous provoquer. Nous provoquer. C'est insupportable. Rappelez-vous, il y a quelques années, moi, ça m'a fait ce choc. J'en ai vu beaucoup. J'ai accompagné depuis plus de 10 ans des malades en fin de vie. J'ai vu beaucoup de situations compliquées. Et un jour, je prends mon journal en 2008 et je tombe pleine page sur le visage d'une femme qui s'appelait Chantal Sébir, qui avait demandé à ce qu'on l'aide à mourir. Et elle avait un visage totalement déformé suite à une maladie qui avait déformé amplifié son cerveau. Bon. Et je n'ai pas pu supporter le regard de cette femme. Voilà. J'ai refermé instantanément le journal. Et j'ai dit, ça c'est trop pour moi. Et puis juste après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de faire exactement là ? Qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens d'être choqué. Cette femme est dans une situation qui a une réalité. Elle le vit tous les jours. Et moi, dans mon canapé, dans mon salon, j'ai dit, ça, je ne veux même pas m'y confronter. Voilà. Là, je suis exactement dans une attitude non consolante. Je ne cherche pas à comprendre quelque chose de l'expérience de l'autre. Je ne cherche pas à rejoindre l'autre dans cette expérience. Il m'a fallu un peu de temps pour rouvrir mon journal et regarder le visage de cette femme, essayer de le regarder autrement. Je prends un autre exemple. Dans le film un peu désuet aujourd'hui, mais que je vous invite à voir et à revoir parce qu'il a quand même des messages d'une profondeur fantastique, « La Belle et la Bête » de Jean Cocteau. Eh bien, personne ne peut regarder cette bête immonde, hein, qui en plus exige d'avoir qu'on vienne lui confier cette jeune fille innocente, vierge, tout ça parce que son père s'est malencontreusement aventuré dans son château. Et même la fille, aussi pure, aussi fraîche soit-elle, ne supporte pas au début le regard de la bête. Mais très vite, elle apprend à le regarder. Et il y a quelques scènes qui sont tout à fait saisissantes dans ce film, où on voit qu'il y a une accoutumance, que son premier regard était légitime, ce regard de dégoût, ce regard de peur était légitime parce qu'il est instinctif chez nous. Mais petit à petit, à force de côtoyer cette vulnérabilité, elle, très visible, manifestée dans la chair, hein, eh bien, elle évolue, mais c'est la bête elle-même qui a du mal à croire que la belle puisse la regarder sans grimacer. Et à un moment donné, il y a cette scène où la bête va frapper à la porte, et puis la belle ouvre, et on voit la bête qui commence à se lacérer avec ses griffes, à s'arracher la peau, ça fume de partout, il y a Jean Marais sous son masque qui doit transpirer à grosses gouttes, et ça fume, c'est incroyable cette scène. Et il lui dit pardon. Il lui dit pardon de quoi ? Et il lui dit pardon d'être une bête. Et elle l'envoie balader en lui disant « Mais vous n'avez pas honte de vous comporter ainsi ?» Et elle le chasse. Et lui se voit tel qu'il s'imagine qu'on le voit, mais elle a déjà changé de regard. Et elle ne supporte pas qu'il pense qu'elle le voit encore comme une bête. Donc par son regard, elle l'oblige à se regarder non plus comme une bête, mais comme un cœur qui aime ou qui est digne d'être aimé. Et à la fin du film, quasiment la dernière scène, quand il se transforme en prince charmant et qu'il tombe dans ses bras dans cette scène tout à fait amusante aujourd'hui, qui prête presque à sourire, mais il lui dit une phrase fascinante. Il lui dit « Je ne pouvais être sauvé que par un regard d'amour. » Oui. C'est pas les actions entreprise ici ou là, de part et d'autre, tout ce qu'on aurait avec notre génie, notre intuition, notre innovation, vous voyez, notre imagination qu'on pourrait mettre en place pour divertir. Il ne s'agit pas de divertir, là, en l'occurrence. La bête n'a pas essayé de faire croire, la belle n'a pas essayé de faire croire à la bête qu'elle était belle. Alors qu'elle s'empêcherait, voilà, elle le verrait encore avec son masque. Non, elle lui a montré qu'elle le voyait comme quelqu'un de beau. Et ce regard sauve. Donc, quand on pense à la question de la consolation, nous sommes tous tentés de faire cesser la peine, les pleurs, le tragique d'une situation pour rétablir la situation antérieure. Ça, c'est notre conditionnement. C'est même presque notre pathologie. Et il nous faut petit à petit comprendre que ce qui est consolant, c'est pas le divertissement, c'est pas de faire croire, c'est pas de faire cesser le problème, la détresse, la peine. C'est d'accompagner la personne dans la traversée de cette peine. Vous ne consolerez pas une personne endeuillée en lui faisant croire qu'elle va retrouver son mari, ni en lui faisant croire que ben c'est comme ça, allez, maintenant, faut te redresser. Hein ? Viens, on va aller au cinéma, demain, reprends ton travail, allez. Voyons, tu vas pas rester comme ça si longtemps. Retrouve un homme. Non, ça ne fait aucun sens. Ça fait sens que pour celui qui le dit, pas pour celui qui l'entend. Voilà. La manière consolante, peut-être la seule manière consolante, c'est d'être là, de se contenter. J'aime bien ce mot, se contenter. Vous voyez, il y a du contentement, se contenter d'être là. Et de légitimer la souffrance de l'autre sans faire croire qu'elle pourrait disparaître par un coup de baguette magique ou par le moment d'un divertissement, hein, et sans non plus penser que la personne est prisonnière de son enfer, voire de son enfermement. Donc il y a une manière de regarder l'autre, comme dans La Belle et la Bête, qui laisse comprendre à l'autre qu'il a les ressources pour traverser l'épreuve. Il est soutenu sans être porté. Il est soutenu pour apprendre à se porter lui-même, à supporter cette épreuve et à la traverser. Oui. Ça, c'est quelque chose d'autrement plus consolant. C'est peut-être moins spectaculaire. C'est peut-être plus compliqué à traverser parce qu'il y aura des vallées de larmes. Parce qu'il faut apprendre à respecter le rythme de la personne blessée. Ça peut prendre quelques jours, quelques heures, quelques années. Ça peut aussi ne jamais déboucher sur quelque chose. Peut-être avez-vous vu ce film qui m'a beaucoup interpellé de François Ozon qui s'appelle « Sous le sable », qui raconte l'histoire de Charlotte Rampling qui perd son mari, qui se noie, mais en fait elle ne le retrouve pas, on ne retrouve pas son corps, pas tout de suite. Et donc elle est confrontée à l'absence et elle en devient folle, folle. Et elle est soutenue par tout son entourage qui lui dit « Allez, allez, il faut reprendre pied dans la vie », qui essaye de la distraire. Mais elle est confrontée à l'absence, elle n'a pas vu le corps. Donc elle ne sait pas qu'il est mort. Elle le sait, mais elle ne le sait pas. Et son deuil ne se fait pas. Et puis au bout d'un moment, on lui montre le corps. Et elle ne veut pas le voir. Elle le voit, mais elle ne veut pas reconnaître que c'est son mari. Et elle glisse petit à petit dans un monde onirique, névrotique, où elle rêve qu'il est encore là. Voilà. Cette femme ne fait pas le deuil, ne refuse d'être consolée. Mais c'est son choix, c'est sa limite. Vous voyez ? Donc il nous faut aussi être capable, quand on est confronté à des gens qui sont confrontés au chagrin, d'accepter leur chemin, même si ce n'est pas celui qu'on aimerait les voir suivre. Et ça, c'est difficile. D'abord parce qu'on aimerait que les gens soient consolés plus vite. Ensuite, parce qu'on aimerait qu'ils soient consolés tout court. Et pourquoi on aimerait qu'ils soient consolés? D'abord parce qu'on les aime et qu'on préfère les voir joyeux que tristes, certes. Mais il y a aussi quelque chose qui se tient un peu en nous. Alors là, je vais emprunter un outil à la psychologie qui s'appelle le triangle dramatique de Karpman. C'est affreux, ça, le triangle dramatique de Karpman. Alors, c'est quoi cet outil? Ben, c'est ce que les psychologues utilisent pour essayer de repérer des postures qui ne sont pas tout à fait justes. Il y a, comme dans tout triangle, trois postures, trois coins. Il y a la victime, il y a le bourreau et il y a le sauveur. Alors, la victime, elle est facile à identifier, c'est celle qui souffre. Le bourreau, il est facile à identifier, un peu plus facile à identifier, c'est celui qui a causé un trouble. Alors quand on a reçu des coups, c'est facile d'identifier le bourreau, c'est le méchant qui a tapé. C'est plus difficile d'identifier le bourreau quand c'est quelqu'un qui est décédé, qui nous a abandonnés, qui nous a quittés parce qu'il est mort. Vous voyez ? C'est lui qui est à l'origine de la peine qu'on vit. Mais en même temps, comment accuser le mort d'être mort, de nous avoir abandonnés ? Difficile, ça. J'ouvre une parenthèse. Dans ce livre, encore, Laure Adler, qui fut conseillère de François Mitterrand et présidente de France Culture, a perdu un fils. Elle a perdu un fils. Et elle ne s'en est jamais remise. Et elle le dit avec beaucoup de sobriété, beaucoup de simplicité, en disant « Je suis inconsolable. Totalement inconsolable. » J'en veux à mon fils et en même temps, j'en veux parce qu'il m'a quitté brutalement, il était jeune. Et en même temps, je ne peux pas lui en vouloir. C'est mon fils, je l'aime. Donc elle est prise dans une posture dramatique entre le fait qu'elle lui en veut et le fait qu'elle ne lui en veut pas, entre le fait qu'elle déteste ce qui lui fait vivre et qu'en même temps, elle aime profondément encore son fils. Et elle dit même que être consolée, ça serait pour elle comme enterrer pour de bon son fils, ce qu'elle ne peut pas se résoudre à faire. Donc elle sait qu'elle est inconsolable et elle entretient le fait d'être inconsolable. Elle ne veut pas être consolée. Voyez ? Parce qu'être consolée, c'est perdre son fils une deuxième fois. Vous êtes peut-être comme moi. Moi, dans mon téléphone, j'ai encore plein de numéros de téléphone de gens qui sont décédés, que je n'ai pas effacé. Et parfois, je retombe dessus. Voilà. Je ne les ai pas complètement sortis de ma vie. Ils sont encore un peu là. Et puis, je me dis un jour, tiens, je suis là, je l'efface. Pourquoi est-ce que ce jour-là, je l'efface? Je ne sais pas. Ouais, je l'efface. Donc, ça, c'est le côté victime-bourreau du triangle dramatique de Karpman. Il y a une relation. Ma souffrance, il faut quand même qu'il y ait une cause. Si je suis victime, je ne peux pas être victime sans cause. René Girard, l'académicien, a montré beaucoup que nous avions besoin de désigner un bouc émissaire, quelque part. Qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit à l'origine de cette souffrance. La souffrance sans cause, c'est une souffrance intolérable. Mais il y a un troisième coin dans le triangle de Karpman, c'est le sauveur. Victime, bourreau, sauveur. Ben, le sauveur, c'est celui qui s'imagine que, ben, voilà, il va sauver l'autre. Que c'est grâce à lui que l'autre va pouvoir se redresser dans la vie, se relancer dans la vie, chasser ses fantômes, passer à autre chose, revivre, renaître. Et le sauveur, sa pathologie, c'est de vouloir trop en faire. de prendre le problème de l'autre comme si c'était le sien. À sa place, moi j'aimerais qu'on fasse ça, alors je vais le faire pour lui. Je vais l'entraîner, je vais l'emmener, on va aller faire des week-ends. C'est très bien, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis qu'il ne faut pas être dupe de ce qui est en train de se faire à ce moment-là. Que d'une certaine manière, est-ce qu'on répond vraiment aux besoins de l'autre qui a juste peut-être besoin de silence, qui a juste peut-être besoin qu'on accueille ses larmes, même si ça doit durer 2 heures, qui a juste peut-être besoin qu'on ne dise rien mais qu'on reste là. Oui. En tant que bénévole de soins palliatifs, moi très souvent j'ai passé du temps où je fais de malades qui étaient inquiets, qui étaient en souffrance, mais qui ne voulaient rien me dire, qui ne voulaient pas me dire pourquoi, et avec lesquels on ne parlait pas. Voilà, j'ai pu passer des dizaines de minutes, parfois des heures, à ne pas parler avec des gens. Et je me souviens en particulier de ce monsieur qui, au bout d'un long moment passé ensemble, me regarde et me dit « Vous pouvez y aller, merci. » Alors moi, j'étais là en disant ben, « c'est un merci de politesse ou quoi ?» J'ai quand même passé 3 quarts d'heure avec lui, il ne s'est rien passé. De temps en temps, je guettais, est-ce qu'il dormait, est-ce qu'il ne dormait pas, enfin, bon, j'étais là en train d'essayer de faire quelque chose quand même, parce que je suis quand même conditionné pour ça. Et lui, il avait juste besoin que je ne fasse rien. Et bien c'est ça qui était consolant pour lui dans ce moment-là, c'est que je ne fasse rien. Vous voyez ? Que je mette de côté mes propres projections, mes propres désirs de bien faire, mes propres désirs de soulager, que je quitte ma position de sauveur. Pour sortir de cette espèce de triangle dramatique, de sorte qu'au bout d'un moment, il n'y ait plus ni bourreau, ni victime, ni sauveur. L'enjeu de la consolation, c'est ça. C'est de sortir de ce piège où on assignerait les uns, les autres et les troisièmes à des places. Vous voyez ? Oh le méchant, oh le gentil. Non. Voilà. Sortir de ça pour réaliser quoi ? Que l'expérience de la vulnérabilité, que le drame de la vie, d'une manière générale, hein, parce que toute vie a quelque chose de dramatique, eh bien, ça n'est pas d'être à un moment donné bousculé et de rêver qu'on reviendrait à l'étape d'avant, comme dans les jeux vidéo, quand ça ne s'est pas bien passé, on prend la sauvegarde, hein, on revient à la partie d'avant, les enfants savent très bien faire ça. Hein, voilà. Oh ben non, je ne me suis même pas trompé. Je repars là où j'en étais. Ah, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Non. Ça, c'est la posture prométhéenne qui pourrait nous faire croire qu'à un moment donné, nous pouvons faire disparaître quelque chose qui est venu, qui était encombrant dans notre vie. Alors que l'autre posture, qui est beaucoup plus humble, consiste à dire toute expérience de vie, fût-elle dramatique, est une expérience saisissante, est une expérience enrichissante, est une expérience instructive. En tout cas, c'est une expérience qui me transforme. Je ne suis plus celui que j'étais. Alors, qui suis-je ? J'ai appris que j'avais un cancer du pancréas ou du sein ou que sais-je. Enfin, pas du pancréas parce qu'on en guérit peu, mais prenons un cancer dont on guérit mieux, le cancer de la prostate. Eh bien, ça a été guéri. Hein ? Ah oui, mais je ne serai pas celui que j'étais avant. Du fait même que j'ai eu un cancer, je ne suis plus du tout la même personne. Du tout. Extérieurement, oui, peut-être. Mais intérieurement, plus du tout. Du fait que j'ai perdu mon conjoint, je ne suis pas du tout la même personne. Et si je me remarie, je serai quand même un endeuillé, un veuf, même remarié. Donc ça veut dire que l'épreuve, fondamentalement, elle est... Je reprends un mot que j'ai utilisé tout à l'heure, mais je vais lui donner un autre sens. Elle est passagère, en ce sens que l'épreuve fait passage. Elle nous conduit d'un état à un autre. Elle n'est pas passagère au sens où elle serait éphémère, vouée à disparaître. Elle est passagère parce qu'elle est notre compagne. Arrêtons-nous un instant sur une réflexion. Aujourd'hui, on lutte de plus en plus efficacement contre la douleur. Et c'est tant mieux. Je ne sais pas si vous avez déjà eu mal, probablement, hein, même si c'est une écharde ou même si c'est des douleurs plus violentes. Mais quand on a mal, on pense qu'à ça. Ça prend toute la place. Donc on n'a qu'un seul souhait, c'est que ça s'arrête. Alors aujourd'hui, nous avons des moyens sophistiqués, chimiques, pour quasiment si on est dans les mains de bons professionnels, ne plus souffrir. Quand on a des gens qui souffrent le martyr, il faut aller voir qui s'occupe d'eux. Parce qu'il y a moyen de se former, hein, de mieux en mieux. Ça prend du temps, ce n'est pas forcément la porte à côté, hein, mais on peut se former au soulagement des douleurs dans la plupart des cas. Mais on pourrait, grâce aux ressources de la science, on pourrait imaginer que demain, on pourrait supprimer toutes les souffrances, toutes les douleurs et peut-être même toutes les souffrances psychiques. Hein ? Rendez-vous compte, on pourrait ne plus souffrir. Cette croix, ce lot que notre humanité porte depuis la nuit des temps, peut-être qu'aujourd'hui nous sommes à l'aube de nous en débarrasser, de cette calamité de la souffrance. C'est inhumain de souffrir. Il faut donc abolir la souffrance, la déclarer hors la loi, mener contre la souffrance un combat sans relâche. Eh bien, arrêtons-nous un instant et demandons-nous ce que nous serions si nous n'avions jamais souffert et si nous ne devions plus jamais souffrir. De rien. Est-ce que c'est si tentant que ça ? Est-ce qu'un être humain qu'on aurait anesthésié à ce point, c'est-à-dire qu'il serait encore vivant, mais il ne sentirait plus, est-ce que cet être humain rendu insensibilisé ne deviendrait pas très vite un être humain insensible ? Est-ce que ce n'est pas justement la place de la souffrance dans notre vie qui nous rend si sensibles ? On parle de consolation quand nous sommes émus par quelqu'un qui souffre. C'est quand même aussi sa souffrance qui nous fait venir là et qui nous stimule, qui nous suscite, en sens où elle nous fait sortir de nous-mêmes. Elle nous oblige. Quand vous voyez les gens qui ont des proches atteints de maladie d'Alzheimer, au début, ils vous disent « j'y arriverai jamais ». Et puis après, au bout de 6 mois, aussi épuisant, et je ne néglige pas l'effort que ça représente, ils disent « dis donc, je ne savais pas que je serais capable de ça. Je ne savais pas. » Donc, est-ce que nous ne devons pas nous méfier d'une idéologie qui voudrait éradiquer toute épreuve, toute souffrance dans la vie, pour faire de nous, au final, des êtres humains insensibles, et donc, finalement, des non-êtres humains ? Est-ce que la richesse de notre culture, l'art, au sens large, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la littérature, est-ce que ce n'est pas le fruit d'une forme de souffrance ? Est-ce que vous imaginez que les compositeurs ont tous composé comme ça dans l'allégresse et dans le premier jet ? Que les écrivains écrivent tous comme ça avec légèreté ? Hein ? Que les peintres, ça ne leur a demandé aucun effort ? Oui. Les formes les plus essentielles de notre communication, de notre expression, eh bien, passent par la souffrance. S'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de Van Gogh. Oui. Alors la question, ce n'est pas d'éradiquer ou pas la souffrance, ni à l'inverse de valoriser la souffrance, le dolorisme a fait son chemin, il est derrière. C'est de trouver le dosage. Qu'est-ce qui permet à un être humain, confronté à une épreuve, à une situation de souffrance, de pouvoir la traverser ? La question, elle est là. Sachant que tout le monde n'y arrivera pas, ce n'est pas l'école des fans où tout le monde a 10 sur 10, hein, mais qu'il y a des moyens, il y a des choses qui peuvent être mises en place pour aider les gens à faire ce chemin. Et les aider, ça suppose effectivement d'aller voir le SDF et de lui donner comme un repas, parce que s'il n'a rien dans le ventre, il va avoir du mal à se mettre debout. Mais ça ne suffit pas. Il y a d'autres manières de l'aider pour lui permettre de retrouver une place, une dignité, un regard. J'ai parlé donc tout à l'heure du regard. Oui. Alors, tous ces préceptes de consolation entendus comme ça, comme étant, il y a quelque chose à faire, mais ce n'est pas forcément en s'agitant. Il y a quelque chose qui est aidant pour l'autre, mais ce n'est pas forcément nos recettes, les idées qu'on s'en fait. Il faudrait peut-être essayer d'écouter ce que lui en dit. Et bien, c'est des choses qui sont mises au quotidien en œuvre par les professionnels et les bénévoles de soins palliatifs. Les soins palliatifs, outre le fait qu'ils viennent aider les gens dans des moments les plus critiques de leur vie, la fin de vie, le pré-deuil, hein, le moment où les proches se préparent au deuil aussi, eh bien, c'est comme un laboratoire qui vient mettre la lumière sur l'expérience la plus déchirante qu'un être humain peut faire, qui est celui de la fin de vie ou celle du deuil. Mais ce que les soins palliatifs illustrent a vocation à s'appliquer sur l'ensemble des champs où nous sommes en relation, sur l'ensemble des domaines où nous sommes confrontés à des gens fragiles et ébranlés. Oui. Ces principes qui consistent à accompagner, parce que le cœur des soins palliatifs, c'est presque ça. Il y a bien sûr des tas de choses à faire dans le domaine médical, notamment le soulagement des douleurs, mais ça ne suffirait pas s'il n'y avait pas derrière la dimension d'accompagnement qui est celle qui, grâce à une main, grâce à un regard, grâce à une présence, aide l'autre à se redresser, à se porter, à se supporter, à se transporter. Oui. Tous les gens qui font, il s'agit dans les soins palliatifs, mais dans d'autres domaines aussi, sont des porteurs de quelque chose. Et ce n'est pas forcément des sauveurs. Il faut surtout les sortir de cette position de sauveur. Ils n'ont pas tant de choses à faire que ça, ils ont à être là, et j'ai essayé de vous montrer à quel point ça en soi, c'est consolant. Donc, on n'est plus là comme étant la vulnérabilité comme pierre d'achoppement, comme scandale, ce qui fait trébucher, mais on est dans une représentation de la vulnérabilité qui est au contraire la pierre angulaire, le point de départ vers quelque chose d'autre. Il y a eu une vie, il y a eu un fracassement à un moment donné, et il y a une vie qui peut renaître derrière. Et il y a un temps d'accompagnement, une transition, une mutation, un cocon entre la chenille et le papillon, pour le dire peut-être comme ça. Vous voyez, il y a une métamorphose entre le têtard et la grenouille. Et ce temps de maturation, il doit être respectueux du rythme de chacun, des capacités de chacun. Et ce n'est pas la peine d'aller mettre un coaching dynamique, au sens coaching sportif. Hein ? Allez, vas-y ! Non, ça, c'est le meilleur moyen d'inhiber, de figer celui qui essaye de trouver un cheminement. Alors, pierre angulaire, parce que c'est le point de départ d'une nouvelle construction. Celui qui a connu la vulnérabilité, la fragilité dans sa vie, on peut essayer de le réconforter. Réconforter, ce n'est pas soulager en tapant gentiment sur l'épaule. Réconforter, c'est faire en sorte que l'autre retrouve des forces, retrouve sa force, ses forces. Hein ? C'est ça, réconforter. Historiquement, la devise médicale, une des devises du monde médical, c'était guérir parfois, soulager souvent, réconforter toujours. Et parfois, on traduit par consoler toujours. Guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours. On pourrait se demander si aujourd'hui notre société, le monde médical en est aussi une illustration, n'aurait pas inversé cette devise au point qu'on dirait ben, le soin, c'est guérir le plus souvent possible, soulager parfois et consoler si on a le temps. Vous voyez ? Est-ce que le soin n'a pas été quelque part dévoyé ? Au point qu'il ne répondrait pas exactement aux besoins. Il répondrait à des besoins primaires qui sont de lutter contre la mort, d'essayer de survivre, mais il ne correspondrait pas à des besoins secondaires et tout aussi importants qui est « mais qui suis-je ? » Je suis toujours troublé parce que on se représente en Occident la question du « qui suis-je » comme étant un individu qui se met face à son miroir, qui se regarde lui-même dans le blanc des yeux et qui se dit tout seul « qui suis-je ?» Ben, si vous arrivez à savoir qui vous êtes en faisant cet exercice-là, je suis inquiet. Parce que moi, je ne sais ce que je suis ou je crois savoir à peu près qui je suis que parce qu'autour de moi, j'ai eu une myriade de gens qui m'ont renvoyé quelque chose. Pour eux, je suis ça. Ce n'est pas en moi, je suis ça. Pour ma femme, je suis ça. Pour mes enfants, je suis comme ça. Mes collègues me voient autrement. Ma famille, mes amis me voient encore autrement. Et tout ça, c'est moi. Donc, le « qui suis-je » renvoyé à soi-même est une forme d'aberration. C'est une stérilité. Alors que le « qui suis-je » à travers le regard de l'autre, ça, oui, c'est dynamique, c'est vivant. Parce que le regard de l'autre, il va changer en plus. Ils vont me voir autrement. Parce que je ne cesse de rencontrer des nouvelles personnes qui vont me renseigner sur moi-même. Donc, il y a cette fécondité qui est inhérente à la relation, au fait de rentrer en lien, d'oser aller à la rencontre de quelqu'un. Et ce qui est encore plus étourdissant, c'est que celui qui ose aller à la rencontre de la personne fragile, celui qui ose la consoler dans sa détresse, D'abord, il vaudrait mieux qu'il ne prétende pas être capable de la consoler. Ça, c'est déjà un premier point. C'est peut-être grâce à ça qu'il va pouvoir être un peu consolant. Mais celui-ci va se découvrir lui-même grâce à celui qui est fragilisé. Ah, comme je le disais à propos de la maladie d'Alzheimer, mais je ne savais pas que j'étais capable de tout ça, moi. Le nombre de bénévoles en soins palliatifs qui viennent en se faisant une certaine idée de ce que c'est que l'accompagnement de la fin de vie, et puis au bout de 15 jours ou au bout de 3 mois, disent « Ah, je ne savais pas que c'était ça, c'est beaucoup plus simple que ce que je croyais d'abord. C'est beaucoup, beaucoup plus simple que ce que je croyais. Et alors, je découvre des tas de choses sur moi-même. » Voyez ? D'une certaine manière, c'est aussi celui qui est malade, fragile, qui aide celui qui est en bonne santé, debout et en pleine possession de ses moyens, à découvrir qui il est. On devrait être capable de dire merci, hein, déjà, rien que pour ça. Donc il y a cette double fécondité. La vulnérabilité est un appel à l'aide, c'est une sollicitation qui vient nous toucher, qui stimule chez nous un élan de sollicitude, une réponse qui est une sollicitude. Et ça a comme vertu de nous révéler les uns les autres, à nous-mêmes, grâce à l'autre. Et ça, ça n'aurait jamais eu lieu sans l'épreuve, sans la vulnérabilité. Si chacun est fort, chacun reste dans son domaine et chacun se méfie de son voisin. Hein ? Je construis des murs autour de ma maison et je rencontre mes voisins en leur disant bonjour le matin, bonsoir le soir. Voilà. Ça, c'est véritablement passer les uns à côté des autres. Donc à terme, c'est étouffer la vitalité qu'il peut y avoir dans une société. Donc autour du thème de la consolation, et puis je vais m'en arrêter là pour qu'on ait un peu de temps de discussion, il faut repérer quel est le besoin de la personne, ne pas prétendre être capable d'y répondre, ne pas avoir de solution pour l'autre. J'aime bien les Shadok, et Shadok disait de toute façon, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc ça peut aussi nous aider, hein, quand on est face à quelqu'un qui a des problèmes tellement insurmontables, on n'est peut-être pas obligé de se prendre ses jambes à son cou et de s'en aller, en disant c'est trop, j'y arriverai pas, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Hein. On peut se dire, ben, il n'y a pas de solution, il n'y a peut-être pas de problème, on va peut-être se contenter d'être là. Vous voyez ? Que ce n'est peut-être pas si anormal d'être à ce point triste. Donc, voilà, cette vulnérabilité qui appelle une réponse. Alors, il y a dans la réponse deux choses. Il y a ce qu'on peut faire, ce qui est consolant. Il y a des choses qui sont consolantes. Parfois, la distraction peut être consolante. Prenons l'exemple des personnes qui sont en deuil. Il ne s'agit pas sans arrêt d'être dans une chambre obscure, hein, l'écouter pleurer à son rythme. Parfois, c'est bien de l'emmener au cinéma, de lui faire prendre l'air, d'inviter des amis. Mais parfois, c'est pas bien. Donc, il y a dans l'accompagnement de la détresse un véritable exercice d'improvisation qui doit nous amener à être confiants, à nous connaître suffisamment nous-mêmes pour faire confiance à notre intuition. Ça, je le sens bien. Voilà, il y a un truc qui me parle. Là, je sens bien que ça pourrait lui faire du bien. Et puis, en même temps, on peut se tromper. Et donc, il faut sans arrêt vérifier auprès de l'autre si ça lui fait du bien, si ça lui convient bien. Puis si l'autre dit maintenant tu me fiches moi la paix, je veux plus, et ben c'est ça qui lui fait du bien. Alors si on prétend lui faire du bien, il faut s'éclipser tout simplement, sans en prendre ombrage. Oui. C'est très complexe et c'est très subtil et en même temps c'est très simple l'accompagnement. Voilà, je pense que à partir de ça, je vais terminer sur ce point-là. Nous n'avons pas le devoir de consoler quelqu'un. Nous ne sommes pas investis de cette mission. Nous ne sommes pas consolateurs. Nous ne sommes pas des professionnels ni même des amateurs de la consolation. Ça n'est pas une mission de consoler. En revanche, nous avons un autre devoir. C'est celui de ne pas abandonner quelqu'un qui est dans la détresse. Ça, ce devoir-là, il est impératif. Parce que sinon, nous nous dérobons, nous nous défaussons. Donc, comment montrer à l'autre qu'on est là, sans pour autant rentrer dans cette posture pernicieuse du sauveur qui a des recettes, des clés. Et ça, c'est la clé, justement, cette seule manière d'être là, c'est la clé pour permettre à l'autre de se sentir réconforté, pour pouvoir faire ce passage duquel il pourra sortir renouveler, non pas renaître au sens où il naîtrait comme la première fois, mais naître à nouveau, naître une deuxième fois dans sa vie. Sortir de cette épreuve pour naître. Et au passage, eh bien nous aussi, on fait ce même travail de nous découvrir et donc de nous enfanter ou de nous renouveler pareillement. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur la consolation. Vous voyez que le sujet est immense, hein, qu'il y a des tas de choses que je n'ai pas traitées, évidemment, et sur lesquelles j'espère que vous allez réagir et qui nous donneront matière à discuter. Je vous remercie. Il y a un micro là qui est tout à fait prêt à circuler.
Il y a
une question à gauche,
alors,
madame.
Effectivement. Là-bas. Alors, vous comprenez pourquoi je n'avais pas présenté les t-shirts que plusieurs personnes portent actuellement, parce que pour les journées de soins palliatifs, les étudiants qui ont organisé avec nous nous ont fait mettre accompagner, ce n'est pas être ni devant, ni derrière, mais à côté. C'est pour ça que je ne l'avais pas présenté avant, mais ce qui vient de nous être dit correspond tout à fait à ce qui est noté ici.
Oui, je suis donc une ancienne accompagnante bénévole, bien entendu, Charles Malve. Et j'étais très, très sensible à ce que vous avez dit, en particulier sur ce que nous renvoient les malades, c'est-à-dire la connaissance de nous-mêmes, toutes ces différentes personnes qui nous apprennent nous-mêmes à nous découvrir et nous obligent inconsciemment ou consciemment à faire un travail permanent sur nous-mêmes, parce que justement, par la découverte de nous, et ça c'est vraiment un chemin exceptionnel, je trouve, mais je voulais dire que ça a obligé les bénévoles, et ça faut en être conscient quand même très vite, à faire un très gros travail sur notre ego. Parce que notre ego nous joue en permanence des tours pendables, même dans le meilleur sens des choses qu'on peut imaginer, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on peut aider, qu'on peut rendre service, alors qu'en fait, on est en train de prendre une place qui n'est pas forcément celle que nous devons prendre à ce moment-là. Je vais en rester là, mais je voulais simplement vous dire ce qui me paraissait très important après toutes ces années d'accompagnement, c'est cette espèce de mutation interne, personnelle, qui se fait. Et au bout du compte, cet ego qui reste notre ennemi le plus important. Et la bête a essayé de cadrer, c'est ça le plus important, je crois, pour moi, tout au moins. Je vous remercie.
C'est un propos de nature à donner envie de devenir bénévole. Hein. Quand on voit le parcours, et j'en témoigne aussi, hein, autant que vous, quand on voit effectivement l'impact que ça a dans l'évolution de nos vies intimes. Oui, alors l'ego, ça peut être un problème, mais c'est aussi une chance. Là où l'ego est bien, c'est quand il est à sa place, comme toute chose. Hein, alors, qu'est-ce qui nous aide à mettre notre ego à la bonne place? C'est la reconnaissance de l'autre, l'alter. Voilà. C'est qu'en face, nous avons un alter ego. Nous, on a notre ego, il y a un alter, et on est un alter pour l'autre qui a aussi son propre ego. Et c'est ça la chance, c'est que nous sommes sur un terrain de, je vais employer un gros mot, mais un terrain de négociation. Nous apprenons dans cette relation d'accompagnement à trouver le point d'équilibre qui est respectueux et de l'un et de l'autre. Ce qui est dommageable, c'est quand, vous l'avez utilisé comme expression, quand quelqu'un prétend se mettre au service. C'est très bien d'avoir le souci d'être utile. En tant que parent, on se met souvent au service de ses enfants. Voilà. Pour autant, on ne s'aliène pas. Il ne s'agit pas de se dénaturer sous prétexte que l'autre aurait la primauté. On a entendu souvent dans le domaine de la fin de vie d'ailleurs, des propos qui tendaient à sublimer le malade, hein, à en faire un professeur de vie. Quelqu'un qui, soi-disant, parce qu'il serait plus proche de la mort que nous, aurait des lumières, des sagesses. La réalité est beaucoup plus simple que ça. Il y en a qui font des découvertes, hein, Mais d'un point de vue psychique, ils ne sont pas tellement différents de nous, en réalité. Ils ont peut-être des contraintes, ils sont peut-être un peu plus inquiets par moment, par d'autres, ils sont plus tranquilles. Bon. Donc, nous sommes face à des gens avec lesquels il est possible de tisser une relation. Et volontairement, je sors aussi du champ de la fin de vie. C'est un terrain auquel je me réfère souvent, celui des SDF, c'est pareil. Quand on va voir un SDF, on ne va pas voir un sous-homme, un diminué, un indigne ou que sais-je. Voir quelqu'un avec lequel il est possible de rentrer en relation. Et si nous ne partons pas dans cette logique-là, alors il n'y aura de bénéfice ni pour lui ni pour nous. Donc c'est cet alter ego, cette altérité. J'en profite, petite digression, j'aime bien faire des digressions, à chaque fois j'ai un esprit d'escalier qui revient, mais entre-temps je me suis un peu promené. Ce qui nous permet de découvrir l'altérité de l'autre. Là je vais faire un petit détour philosophique. Ce qui nous permet de comprendre l'altérité de l'autre et donc de nous révéler notre propre ego, de nous révéler qui nous sommes. C'est bien qu'à un moment donné, il y a eu quelqu'un qui a été altéré, qui a connu l'altération, c'est-à-dire le fracassement, la brutalité, quelque chose qui a changé. Altérer, ça veut dire rendre autre. Quand un malade, à un moment donné, découvre qu'il a un cancer, il est altéré, il est rendu autre. Et en même temps, sa santé est altérée. Quand un employé se retrouve mis au chômage et finit quelques mois plus tard à la rue, il est altéré. Voilà. Il est rendu autre. Ce n'est plus le même homme, ce n'est plus la même femme. Eh bien, c'est parce qu'il y a eu cette altération, et je ne suis pas en train de faire l'apologie ni de la maladie ni du chômage, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tous en passer par là, ça c'est des altérations extrêmes. Mais en amont, il y a plein d'altérations plus ordinaires auxquelles nous devons être attentifs. Eh bien, c'est parce qu'il y a eu cette altération dans nos vies qui, loin d'être une calamité, se révèle être une chance. Si jamais nos vies n'étaient altérées, alors elles seraient d'un triste. Vous voyez, la routine, c'est ce qui tue les couples. Parce qu'on essaye de faire en sorte que rien ne soit jamais altéré. Eh bien, c'est cette altération de départ qui nous conduit à l'altérité, à découvrir quelque chose d'autre chez l'autre et quelque chose d'autre chez nous. Vous voyez ? C'est important. Et ça n'est pas... On ne passe pas de l'altération à l'altérité. Suivez-moi. On ne passe pas de l'altération à l'altérité par l'altruisme, cette générosité soi-disant désintéressée qui n'existe en réalité pas. On passe de l'altération... À la désaltération, la fin de l'altération, par l'altérité. Vous voyez ? On ne passe pas de l'altération à la désaltération par l'altruisme, par le don généreux, on y passe par l'altérité, la reconnaissance de l'autre dans son originalité. Ouais. Et là, ça veut dire l'ego doit être à sa place. Autre question. N'hésitez pas, ce sont des gourmandises, les questions.
Ah, le micro là-bas.
Comment peut-on savoir qu'une personne est inconsolable ? Ah.
C'est elle qui doit le dire.
À quel moment on peut s'en rendre compte ?
C'est elle qui doit le dire. Parce que ce n'est pas parce qu'elle pleure tout le temps qu'elle n'est pas consolée. Il y a des pleurs qui sont des hommages. Il y a des pleurs qui sont des détresses. Il y a des pleurs qui sont des joies. Le manque fait partie de nous. J'ai dit au début de mon propos que nous vivons dans une société qui nous fait croire qu'on pourrait ne rien perdre. En réalité, notre nature, c'est de perdre. Nous ne cessons de perdre. Moi, en ce moment, c'est plutôt les cheveux que j'ai tendance à perdre. Vous voyez ? Il faut s'y faire. Hein ? Donc, et ça, c'est un manque inconsolable. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas anormal d'être inconsolable. On peut aller un peu plus finement en pensant que tant qu'on est inconsolable, c'est qu'on a encore une forme de soif, qu'on est conscient qu'il y a un manque et que nous ne sommes pas repus, que nous sommes des êtres de besoin. Oui. La difficulté, c'est de repérer le moment où l'inconsolabilité devient mortifère, où elle enferme, où elle empêche l'être humain de continuer à vivre. Comment repérer quand quelqu'un est inconsolable ? C'est à lui de le dire, et à lui seul. s'il ose. Et il ne l'osera que s'il sent que cette parole est audible par nous. Donc si nous sommes en posture intérieure, au fond de nous-mêmes, à refuser l'idée qu'il soit inconsolable, à essayer quand même de trouver une solution, voyez, probablement que jamais il ne nous confiera qu'il est inconsolable. Et le moment où nous acceptons qu'il le soit, où nous l'acceptons tel qu'il est, y compris jusque dans cette détresse-là, alors peut-être peut-il le dire. Et le dire, c'est déjà le sortir un peu de soi. Quelqu'un qui est inconsolable mais ne le dit pas, eh bien, il est piégé. Quelqu'un qui est inconsolable et qui commence à le dire, alors on peut penser qu'il a déjà fait un petit pas. Vous voyez, je n'ai pas de réponse à votre question. J'ai juste des éclairages comme ça. J'ai tendance à dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui sait si elle est inconsolable ou pas. Et à la limite, est-ce que c'est important pour nous de le savoir ? Que sait-on de la détresse de nos proches ? Que sait-on ? Moi, j'ai accompagné des gens dont j'ai pu dire que ils avaient fait un sacré chemin. Ils avaient fait un sacré chemin et je pensais qu'ils étaient sereins, quoi, qu'ils s'étaient détachés. J'en profite pour me faire un peu de pub, pardonnez-moi ma coquetterie, mon ego. J'ai un livre à paraître au mois de janvier sur l'accompagnement de la fin de vie qui s'appelle « Vivant jusqu'à la mort » au pluriel. Et dedans, je cite le témoignage d'une femme qui m'a profondément bouleversé parce qu'elle souffrait terriblement, elle avait perdu ses deux enfants très jeunes. Non, pardon, je dis bêtise. Elle avait perdu son mari très jeune parce qu'ils étaient sur une plage et son mari s'était porté au secours de deux autres enfants en train de se noyer. Et c'est lui qui s'était noyé. Les deux enfants avaient été secourus, mais son mari s'était noyé. Et elle était restée, elle, seule avec ses deux enfants, veuve. Et elle a passé 50 ans de sa vie à être en colère contre son mari. Et ne pouvant pas être totalement en colère contre son mari, du coup, elle était en colère contre Dieu, parce que c'est plus facile d'être en colère contre Dieu que d'être en colère contre son mari défunt. Et donc, moi, quand je l'ai connue, elle était une femme extrêmement violente intérieurement, déchirée, rebelle, voilà, mais en souffrance. Et semaine après semaine, elle a fait un bout de chemin, elle a pleuré de moins en moins, elle s'est interrogée sur le sens de la souffrance. On a beaucoup parlé ensemble et on a aussi beaucoup passé de temps sans parler. Et un jour, j'arrive et elle riait. Alors là, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Et je lui dis, mais comment est-ce que vous pouvez rire ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous puissiez rire là ? Et elle me dit, mais je ris parce que j'ai compris que je n'y pouvais rien. J'ai enfin compris que mon cancer, ma maladie, la mort de mon mari, je n'y pouvais rien. Je vais arrêter de culpabiliser les autres, de me culpabiliser moi-même, de me pourrir la vie. Je n'y peux rien, comme tout devient léger. Et elle me dit ça, et j'en parle dans mon livre. C'est un témoignage qui pour moi a été vraiment extrêmement édifiant, sensible et édifiant. Elle me dit, j'ai appris le détachement aimant. Elle me dit, mes enfants, elle était comme une mère poule, ils avaient 50 ans leurs enfants, elle était encore comme une mère poule pour eux. Et elle me dit, il peut bien maintenant leur arriver, ce qui va leur arriver, je m'en fiche. Je m'en fiche. Elle disait ça comme un triomphe, comme une victoire. Et elle me dit, j'ai enfin appris le détachement aimant. Waouh ! Je me suis dit, là il y a des gens qui ont fait des chemins de sagesse à la lumière de cette expérience. Radical, hein, radical. Donc cette femme avait été inconsolable toute sa vie. Et puis sur la fin, il semblerait que quelque chose l'ait consolée. C'est venu d'elle-même, c'est pas venu de moi, hein. Moi j'étais spectateur, témoin, c'est tout. C'est venu d'elle. Et bien j'ai appris qu'une fois qu'elle a quitté l'unité de soins palliatifs où j'allais la voir et qu'elle a souhaité partir dans sa maison de campagne à l'île de Ré, et bien elle a été de nouveau rattrapée par ses souffrances. Et donc peut-être qu'elle a un temps été consolée, mais qu'elle était fondamentalement inconsolable quand même. Oui. Bien, ce temps où elle a été consolée était un vrai temps de vie, de vitalité, de découverte de quelque chose de tout à fait saisissant. Voilà ce que je peux vous donner comme élément de réponse.
Merci.
Merci d'avoir dit ce que vous venez de dire, parce que quand les gens sont là pour les autres, ils les portent tout simplement et ils les aident non seulement à vivre, mais à être plein de vie. Hein. Pas seulement vivre, mais être plein de vie. Donc je crois que pour les malades, il faut qu'ils soient conscients qu'il faut qu'ils restent entourés et qu'ils se laissent coucouner par les autres. C'est leur seul avenir et c'est le plus beau.
Je vais compléter ce que vous dites. Parce que le malade soit coucouné, c'est une nécessité. Quand on est abîmé, fragile, c'est important de sentir une présence, même si elle est masculine, qu'elle soit une présence maternante. Voyez, cette capacité à se sentir en sécurité, enfin à faire sentir à l'autre qu'il est en sécurité, qu'il est aimé. Mais il y a des malades qui vont trouver leur vitalité dans le fait qu'ils ont beau être malades et infantilisés depuis un moment, passer dans les séances de chimio, les hôpitaux, les machins, bon. Et à un moment donné, il faut aussi leur donner la possibilité d'être des êtres de révolte, des êtres de décision, des êtres qui prennent les choses en main. Voilà. Et s'ils sont dans ce besoin-là, alors nous, il suffit juste de nous adapter à ça. Donc ça oscille. Peut-être qu'un jour, ils vont être là-dedans en disant « Bon allez, maintenant c'est moi qui vais prendre les choses en main, on va signer les papiers, organiser les trucs, le notaire, le machin, tout ça. » Quelle vitalité il va retrouver dans le fait qu'il a pris les choses en main. Et le lendemain, les choses s'effondrent. Et voilà. Mais c'est pareil pour nous dans nos vies. On passe par ces hauts et par ces bas. Donc j'ai parlé en introduction. On est des êtres fragiles avec des hauts et avec des bas. Et nous passons notre temps à nous hisser et à nous effondrer. À nous rehisser et à nous réeffondrer. Voilà. Devant.
Que c'est pour ça que quand on accompagne, il ne faut pas rentrer dans la chambre avec un projet. Il faut d'abord, avant d'entrer dans la chambre du malade, se poser, se sentir bien en soi, bien posé, et puis ne pas avoir de projet pour le malade. Et se dire, peut-être qu'aujourd'hui, je vais le trouver très différent de la semaine dernière et peut-être très abattu alors qu'il était bien la semaine dernière, etc. Mais je crois que bon, nous, à Jalmav, on dit toujours il faut être une oreille sur un tabouret, c'est-à-dire être près du malade, l'écouter, c'est vrai, et parler le moins possible. Et je crois que aussi, c'est important de ne pas avoir de projet.
C'est très important d'un point de vue presque thérapeutique, hein, au sens propre du terme, faire du bien, faire du soin. De ne pas avoir de projet, parce que sinon on n'est pas dans la relation, on est en train d'essayer de vendre notre camelote à quelqu'un. Et c'est très important d'un point de vue sociétal. Alors moi je suis sociologue, donc je vais vous entraîner maintenant sur une autre réflexion, qui est que notre société meurt de faire des projets tout le temps, partout, pour tous. Tout doit être projet. On est en projet continuel. C'est-à-dire qu'on est en projection. Qui dit projet, dit projection. Nous sommes donc tendus vers l'avenir parce que nous avons une telle terreur du présent et une telle hantise de l'avenir que nous essayons de l'anticiper, nous essayons de le contingenter, de le préparer. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut tout réussir, mais il faut aussi tout préparer. Il faut tout anticiper. Donc, nous ne sommes finalement jamais là où nous sommes toujours un peu ailleurs, plus loin. En train de se dire, demain, qu'est-ce que je dois faire ? Oh, puis alors, c'est vrai, je n'ai pas prévu les formalités pour... Voilà, pour le contre-op, c'est que sais-je, ou bien pour les études des enfants dans 5 ans. Enfin. Et donc, nous sommes en train, d'un point de vue sociétal, culturel, de mourir de ça, au sens où un sociologue qui s'appelle Alain Ehrenberg a étudié que l'excès de quête de performance, ce qu'il a appelé le culte de la performance, vouloir toujours être au top, hein, produit... Ça, le culte de la performance, c'était son premier livre. Ça produit, c'est le titre de son deuxième livre, des individus incertains. À force d'être toujours tendu vers l'avenir, vers la performance, on ne sait plus qui on est. Et ça produit, son troisième livre, dans sa trilogie, une fatigue d'être soi. Donc l'individu incertain, c'est celui qui va avoir recours à tout un tas de stimulants pour essayer de quand même tenir le coup. Il va prendre des drogues, il va se doper, enfin il va se prendre du coaching, il va essayer de savoir qui il est en essayant de se stimuler. Et puis la fatigue d'être soi, c'est celui qui a recours aux psychotropes, hein, au bout d'un moment, pour arriver à essayer quand même de survivre, malgré tout, il ne sait plus qui il est. Hein. Donc notre société, à force de faire des projets, nous décentre de qui nous sommes, nous obsède de qui nous devrions ou qui nous pourrions être. Et il y a, et vous avez vraiment raison de le souligner là, il y a dans cette posture de l'accompagnement consolant, au sens où j'ai vraiment, au sens que je donne à ce mot, hein, je m'en suis longuement expliqué, cette posture de l'accompagnement qui est consolant, une attention à l'instant présent, un détachement des projections. On n'arrive pas pour faire ceci ou pour faire cela, on vient parce qu'on a envie de voir quelqu'un, on a envie de passer un petit moment avec elle. On ne sait pas ce qui va se passer. On n'essaye pas de l'orienter dans telle ou telle direction. Il y a donc ce que certains appellent ce rapatriement dans le présent. Nous sommes tellement tirés vers l'avenir qu'il nous faut presque faire un effort intérieur pour nous rapatrier dans le présent, pour pouvoir dire, et que ça ne soit pas que des mots, « je suis là ». Que ça soit un « je suis là » qui est vraiment plein de ce que je suis là. Vous voyez ? Et ça, c'est séditieux, c'est subversif dans notre monde contemporain. Mais c'est de la subversion au sens où c'est du soin, c'est du sain. Il y a de la santé derrière cette posture. Pourquoi ? Je vais citer quelqu'un dont vous avez sûrement entendu parler, Christophe Fauré, le psychiatre qui, après avoir beaucoup travaillé sur la question du deuil, aujourd'hui promeut la méditation. Pourquoi est-ce que la méditation, sous son angle bouddhiste, gagne autant notre société? C'est parce que notre société a soif d'attention à l'instant présent, sans jugement. Et c'est ça ce que promeut la méditation. Et donc, à chaque fois que nous posons des actes où nous sommes vraiment présents à ce que nous faisons, que ce soit en faisant la cuisine ou que ce soit en nous tenant au chevet du malade, eh bien, nous promouvons de la santé dans cette société qui est quand même assez malade. Donc il y a derrière cette posture de l'accompagnement, qu'elle soit dans le registre domestique, qu'elle soit dans le registre du bénévolat, qu'elle soit chez les soignants quand ils font leur activité soignante à l'hôpital, qu'elle soit dans l'enseignant lorsqu'il prête attention à ses élèves ou dans le manager quand il s'occupe de ses troupes, il y a dans cette attention au présent et dans cette attention à l'autre quelque chose qui a une portée sociétale considérable. Non seulement ça nous fait du bien à nous tout de suite, mais ça participe d'une société qui s'arrête un peu plus sur l'instant présent et apprend à vivre un peu mieux. Merci de cette précision sur la problématique du projet.
Moi, j'ai une question. En fait, quand on a des personnes qui nous demandent de l'aide, mais qu'on ne peut pas les aider, du coup, comment est-ce qu'on peut réagir sans pour autant les abandonner? Et comment, enfin, sans que eux se sentent abandonnés, surtout.
Il y a des impossibilités physiques. Vous n'êtes pas là, vous n'habitez pas la même région, pas le même pays, vous ne pouvez pas vous déplacer. Ça, c'est des impossibilités qui peuvent être expliquées. Je pense que vous faites plutôt référence à une autre forme d'impossibilité.
Oui, bah, par exemple, les impossibilités quand on nous demande d'aider sur le plan psychique, alors que on ne peut pas. Ou que la personne nous demande de faire des choses alors que ce sera elle de la faire.
Alors là, on revient à la problématique du sauveur. Si vous êtes face à quelqu'un qui a des besoins qui relèvent à l'évidence de professionnels, psychologues, psychiatres, médecins ou d'assistantes sociales, des gens qui ont une compétence, alors ce ne serait pas aider cette personne que de s'improviser professionnel soi-même. De se faire croire qu'on aurait la capacité de lui trouver des solutions parce qu'on a fait une petite recherche sur Internet. Vous voyez ? Il ne s'agit donc pas de... Là, on retombe sur la problématique de l'ego. Certains peuvent être tentés, parce qu'ils ont été directement sollicités, de chercher une réponse pour cette personne, mais de la chercher eux-mêmes. Il m'a demandé, je vais essayer de trouver une solution pour lui. La première condition d'un bon accompagnement, c'est de rester à sa place et de ne pas se laisser emporter dans les je vais être un peu plus violent, dans les névroses de l'autre. C'est-à-dire que si nous partons dans les névroses de l'un ou de l'autre, au lieu d'avoir la possibilité que deux personnes relèvent, comme je l'ai dit, on peut avoir deux névrosés. Vous voyez ? Il y a une forme de spirale qui fait que si moi, demain, j'ai quelqu'un, ça m'est arrivé, donc je parle un peu d'expérience, qui a manifestement des traits psychiques graves, psychiatriques même, eh ben, ce n'est pas à moi de m'en occuper. Donc là, il faut vraiment passer l'éponge, parce que sinon, on se laisse entraîner. Et dans ces moments particulièrement de vulnérabilité, chacun d'entre nous porte sa part de névrose. Et donc, dans ces moments-là, elle peut être accentuée. Je ne dis pas qu'on a affaire à des gens qui sont psychotiques ou névrotiques graves, mais qui peuvent être tellement ébranlés par la vie qu'il y a des traits de leur caractère qui prennent l'ascendant. Et donc, on est face à une relation qu'il faut quand même aborder avec un peu de prudence. Eh bien, le service à rendre, c'est de rester à sa place et de ne pas se laisser embarquer dans une histoire qui viendrait nous engloutir au passage. Et donc, accompagner, ça peut consister à ne pas accompagner. Mais, comme vous l'avez dit justement, à ne pas abandonner. Donc peut-être aller trouver la personne qui sera la bonne ressource pour cette personne-là. Voyez ? Pousser à l'extrême, ça peut vouloir dire aussi se tenir à distance, pour de bon. Quand vous avez dans des familles des tensions qui sont telles que la simple vue d'un frère ou d'une sœur réactive des choses totalement passionnelles qui peuvent devenir dramatiques, il vaut mieux ne pas se voir que de se voir. Donc ça demande du discernement. C'est là qu'on peut être aimant, comme le disait cette femme, en étant détaché. Voyez, en mettant un peu de distance. Je reviens, la clé, c'est, comme vous l'avez dit, c'est de se connaître soi-même. Savoir quelles sont ses limites. Essayer peut-être de les pousser un peu, ces limites, de tester si elles sont bien là où on croit qu'elles sont. Parce que si on s'arrêtait aux limites qu'on croit avoir, aucun parent ne s'occuperait de son vieux malade d'Alzheimer. Parce qu'il dirait, j'en suis pas capable, c'est trop exigeant. Donc en réalité, nos limites sont toujours un tout petit peu plus loin que ce que nous croyons. Donc il s'agit de les tester en permanence. Mais si on voit qu'on touche à ces limites, et que là on se met en danger, ça n'est accompagnant, aidant pour personne que de s'exposer, que de se se consumer, ça existe dans le monde professionnel, les burn-out, des gens qui vont trop loin, sous prétexte qu'ils veulent sauver, par exemple. Donc savoir dire non de temps en temps, c'est une manière d'être aimant, c'est une manière de respecter l'autre, de se respecter soi. On peut aussi discuter, c'est pas impossible, au contraire, de dire à l'autre, je suis désolé, mais ça c'est ma limite. Et c'est entendu généralement par la personne qui est mal à l'aise, mal en point, comme étant un signe d'intérêt. Si on dit à l'autre, voilà quelle est ma limite, alors on le tient pour un interlocuteur valable, responsable, capable de comprendre, capable de nous respecter aussi. Je répète qu'il ne faut pas infantiliser ni les malades ni les mourants, il ne faut pas les assigner à une position de victime. Il faut leur montrer qu'ils ont une puissance, la puissance de rentrer en relation avec nous, la puissance de dire oui, la puissance de dire non, la puissance d'être contrecarré, qu'on leur pose des limites, c'est extrêmement important. Il faut voir cette relation comme étant une relation où l'un et l'autre sont compétents, au sens pas professionnel du terme, au sens ils ont des capacités relationnelles. Intégrale. Oui. Même si on est en larmes, même si on est effondré, c'est une manière qui peut être sécurisante que de dire à l'autre, pas plus loin. Ça le contient. Comme un enfant. Voyez, un enfant à qui on laisse faire tout et n'importe quoi, c'est un enfant qui est en insécurité. Un malade, moi j'ai vu encore l'exemple il n'y a pas très longtemps, un malade qui, voyant arriver une bénévole, a entrepris de mettre ses mains sur les seins de la bénévole. Voilà. Et j'en avais discuté en groupe de parole avant, il y avait déjà des bénévoles qui avaient été embarrassés en disant qu'est-ce que je fais ? Et celle-là, elle a dit non, mais ça va pas, non ? Vous prenez pour qui ? Ça l'a calmé. ça l'a calmé. Il était tranquille après. Voilà, il a été recadré. Ça, c'est un interdit. C'est pas parce que tu es malade que tu as le droit de faire n'importe quoi. Vous voyez ? Donc, tout ça participe d'une relation qui est une relation respectueuse, mutuellement respectueuse. Se respecter soi, respecter l'autre, trouver le mode d'accompagnement où on ne répond pas à tous les besoins de l'autre parce qu'on n'en est pas capable, parce qu'on n'en a pas envie. C'est légitime de ne pas avoir envie aussi. C'est se respecter soi-même. Mais ne pas abandonner, c'est quand même dans ce cas-là d'essayer de trouver la personne qui pourra répondre. Un professionnel, un tiers, un bénévole, une assistante sociale, un curé, que sais-je, voyez.
Oui, mais si cette personne, elle ne veut pas, aller voir le professionnel, ou dans ce cas-là, on se retrouve...
C'est son problème. Ouais. C'est son problème. J'ai interrogé récemment... Je fais partie aussi d'un organisme qui s'appelle l'Observatoire national de la fin de vie. Je vous le cite parce que vous en aurez peut-être parlé. C'est un dispositif qui est chargé d'éclairer le gouvernement pour, et le Parlement pour qu'on puisse prendre des décisions politiques en matière de fin de vie qui soient un peu fondées sur autre chose que des impressions. Et donc, on a mené une enquête qui est à paraître au mois de mars prochain. On a été interrogé les aidants. Ce qu'on appelle les aidants, c'est-à-dire ceux qui s'occupent de leurs proches qui sont malades et qui en ont été voir à domicile comment ça se passe. Eh bien, j'ai cette jeune fille, 22 ans, qui s'est retrouvée avec son père et sa mère. Son père était atteint d'un cancer avancé et le père voulait que ça soit la fille et seulement la fille qui s'occupe d'elle. La mère, elle, allait travailler. Il ne voulait pas que ça soit son épouse qui s'occupe de lui. Il ne voulait pas que ça soit les infirmières de la HAD, des réseaux, des dispositifs de santé qui s'occupent de lui. Il voulait que ça ne soit que la fille. Quand elle s'absentait 10 minutes, il lui faisait une scène. Il voulait que la fille lui fasse la toilette. Il voulait que la fille la nourrisse. Il voulait que la fille dorme dans la chambre d'à côté. Et la nuit, il était tyrannique à l'égard de sa fille. La nuit, il faisait exprès de bouger et elle, elle se levait au quart de tour. Elle était exténuée. Exténuée. Elle a été instrumentalisée. Elle était trop jeune pour dire à cet homme-là « Tu n'as pas le droit de me faire vivre ça. » Et si elle avait eu la force morale de le faire ou si la mère avait pu à un moment donné intervenir, ça aurait certainement rendu service à cet homme plutôt que de le laisser aller dans ce déversement tyrannique. Voyez ? Donc ce n'est pas parce qu'on a un malade, ce n'est pas parce qu'on a une personne fragile qu'il faut lui laisser faire n'importe quoi. Et si elle refuse les choses qu'on lui propose, c'est son problème. Et il faut être capable d'arriver à ce niveau de distanciation, ce qui ne veut pas dire froideur et détachement, désintéressement. C'est renvoyer la personne à sa responsabilité. C'est lui rappeler que même dans cet état, elle est responsable de ce qu'elle décide, qu'elle a encore son autonomie d'être humain. Vous voyez ? C'est pas facile à faire. C'est pas facile. Mais il faut savoir ce que ça veut dire qu'être aidant et être aimant. Ça peut aller jusque-là.
Merci.
Bon courage.
Alors, moi, je suis peut-être...
Prenez le micro, que tout le monde puisse entendre votre question.
Pour ma part, je serai peut-être future bénévole, je n'en sais rien.
Je vous le souhaite.
Oui, et donc l'écoute, moi, c'est ce qui me fait le plus peur, parce qu'on dit que c'est en fait, il suffit d'être assise et écouter. Mais je pense que l'écoute, pour ma part... peut être aussi dangereuse. On peut être un entonnoir où on entend des... On a nos limites aussi dans l'écoute.
Oui. En tant que bénévole, on ne vous envoie pas au feu, hein, ce n'est pas Verdun. Vous avez derrière tout un tas de mécanismes qui sont là pour vous protéger et pour protéger le malade, pour s'assurer que vous restez à la juste place de bénévole qui est la vôtre. Les risques du bénévole, c'est quoi ? C'est de se prendre pour le sauveur et de vouloir trop en faire. Donc d'accepter des choses qu'il ne devrait pas accepter. De rentrer dans la vie intime des gens à ce point que ça finirait par perturber la sienne. Le deuxième risque du bénévole, c'est de croire qu'il devient un ami, hein, qui fait partie de la famille. Donc il faut que le bénévole soit aidé pour rester à sa place où il est une personne qui n'est pas un ami, qui n'a pas vocation. Pardonnez-moi, qui n'a pas vocation à revoir durablement le malade en question, qui est une personne anonyme. On connaît son prénom, on ne connaît pas son nom de famille, on ne donne pas son numéro de téléphone. Hein. de sorte que non seulement on ne soit pas dérangé par le malade qui pourrait être intempestivement tenté de nous harceler, mais aussi de sorte qu'on puisse rester une personne anonyme aux yeux du malade. Et comme ça, le malade peut dire des choses qu'il ne dira pas à ses proches, qu'il ne dira pas à sa femme, qu'il ne dira pas à son voisin, qu'il ne dira pas à son médecin, parce que nous, nous sommes anonymes. On existe, mais en même temps, on n'existe presque pas. Voyez ? Et ça, c'est une option pour le malade supplémentaire par rapport à ce que les soignants, les assistantes sociales, les psychologues et la famille offrent, hein, la possibilité de déposer quelque chose. Maintenant, j'en viens plus précisément à votre question. Si vous sentez à un moment donné qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, d'abord, vous n'êtes pas jeté dans la fosse aux lions du jour au lendemain, vous êtes formé. Au cours du parcours de recrutement, on vous aide à comprendre pourquoi vous avez envie de devenir bénévole, de sorte que vous ne soyez recruté que si ça vous convient. Première chose. Deuxième chose, vous êtes formé avant d'aller sur le terrain. On vous explique ce que c'est qu'un malade en fin de vie, ce que c'est qu'une situation de fin de vie, ce que les bénévoles ont le droit et pas le droit de faire, ce qu'ils ont le devoir de refuser de faire. Ensuite, on vous met en situation de terrain avec un parrain. Et vous le regardez faire. Et il vous regarde faire aussi parce que, je le disais en arrivant à certains d'entre vous, on apprend autant en étant parrain qu'en étant parrainé. Parce qu'au bout d'un moment, on croit qu'on a un peu d'expérience, qu'on est un bénévole qui sait tout faire et on voit la fraîcheur des bénévoles qui arrivent et qui nous en apprennent beaucoup. Il y a beaucoup de spontanéité et ça, on peut la perdre un peu de vue. Donc, cette relation de parrainage, elle est nécessaire. Ensuite, vous avez les groupes de parole qui sont obligatoires et nécessaires. Ces groupes de parole sont sous la supervision d'un psychologue et c'est le moment où vous allez pouvoir dire « Là, j'ai fait ça dans cette situation. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Est-ce que j'ai eu le sentiment d'aller un peu loin ? Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et on s'entraide vraiment. Et tous ces éléments mis bout à bout, cette supervision, cet accompagnement par l'association, c'est pour ça que c'est important de faire partie d'une association, c'est même obligatoire par la loi, c'est pour éviter les situations où les bénévoles seraient tout seuls, livrés à eux-mêmes, en situation de commettre des erreurs, dommageables pour eux comme pour les autres. Et donc, tout ça fait que le bénévole n'est pas un individu isolé, il fait partie d'une équipe, il fait partie d'une association, il est accompagné lui-même, et ça, c'est la condition pour qu'il soit en sécurité et qu'il puisse être pleinement là quand il fait son accompagnement. Et quand il rentre chez lui, qu'il laisse les malades à l'hôpital et qu'il soit pleinement avec sa famille. Voyez.
Moi, je vous remercie de rappeler le cheminement du futur bénévole et du bénévole aussi, hein, parce qu'effectivement, c'est exactement le cheminement que poursuivent les futurs bénévoles de JALMAB et les bénévoles qui accompagnent, qui ont effectivement besoin d'être supervisés, évidemment.
C'est une condition de la sécurité pour tout le monde.
Et c'est la responsabilité de notre association, oui. Et vous avez raison, oui. de le redire.
Est-ce qu'il y a encore une question ? On avait dit qu'on termine à 10h30, il est 10h25. Alors, si vous avez une question, surtout, saisissez l'occasion. Après, ça sera trop tard.
Oui, bonsoir. Moi, ce n'est pas une question, c'est surtout une interrogation. Et je trouve ça extraordinaire parce que je suis soignante, je suis soignante. Et en définitive, je pense que JALMAB apporte quelque chose qui pourrait apporter aussi aux soignants et qu'on n'a pas toujours. Et que si vous interveniez...
Attendez, je n'entends plus. Oui.
Si vous interveniez au sein de l'éducation des soignants, parce que des fois, on a des situations assez difficiles et douloureuses par rapport à un accompagnement de fin de vie dans notre travail, je pense que ça nous permettrait, nous aussi, d'avoir plus de détachement, plus de... Enfin, pas de réponse, mais justement de savoir qu'on peut accompagner sans vraiment soulager ou sans... Enfin, en étant là et présent. Et aussi, surtout, on n'a pas souvent le temps. Et ça, c'est vraiment le travail que font les bénévoles, c'est génial. Mais malheureusement, on ne les voit pas partout. Et je trouve que c'est extraordinaire, quoi.
Alors, c'est vrai qu'on n'est pas partout. Mais effectivement, vous parlez de formation. JALMAB est invité à l'Institut de formation de soins infirmiers et à l'Institut des aides-soignantes aussi. Hein. Donc effectivement, ce n'est qu'un partage d'un après-midi. Mais quand les bénévoles vont dans les services, elles rencontrent avant tout les soignants et partagent une situation qui a été difficilement vécue ou par rapport à une malade ou une famille. Et je crois que c'est ça, c'est la première démarche qu'on demande aux bénévoles, c'est de rencontrer les soignants. Et puis même après, de les rencontrer à nouveau pour, non pas, puisque l'entretien entretien est confidentiel, non pas dire ce qui s'est passé précisément, mais reparler de la situation. Et ça, cet échange, il est primordial, effectivement, pour vous, effectivement. Hein, les bénévoles accompagnent effectivement les personnes malades, les familles, leurs proches, mais aussi les soignants dans cette rencontre que nous avons lorsque nous allons sur le terrain. Je ne réponds pas tout à fait à votre question.
Non, c'est que moi, je n'ai jamais eu l'occasion d'en rencontrer. Ah, c'est voilà. Vrai que dans notre profession, on n'a pas toujours des psychologues, on ne peut pas faire des réunions ensemble. C'est ça qui est dommageable, je trouve, par rapport à votre équipe, à votre écoute.
Ouais.
Nous, on n'a pas cette écoute, on n'a pas ce lien. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus douloureux pour nous de repartir à la maison.
Tout à fait.
Voilà. Donc, je trouve ça...
Vous avez raison. Bah,
c'est ça qui est intéressant par rapport à ce que vous faites et c'est génial, quoi.
Vous travaillez en EHPAD ?
Non, pas du tout.
Ah non, je croyais. Non, ouais, non. C'est parce qu'on n'est pas encore très nombreux à aller, aller accompagner dans les EHPAD, c'est pour ça.
Mais bon, dans tous les services, il y a des fins de vie qui ne sont pas forcément, entre guillemets, mis en soins palliatifs et c'est ça la difficulté, quoi.
Alors, vous soulignez un point, c'est que effectivement, ça serait bien s'il y avait plus de bénévoles dans plus d'endroits. Ça, non seulement parce que ça serait,
oui, parce qu'ils sont
ça serait une belle chose en tant que telle, mais parce que les malades en ont besoin, parce que les services en ont besoin, et vous dites même parce que les soignants en ont besoin. Donc ça, c'est... Donc moi, je trouve que le développement du bénévolat, c'est de la santé pour tout le monde. Pour les bénévoles qui osent cet engagement, qui n'est pas un engagement qui va de soi. Hein. Moi, il m'a fallu quand même quelques années entre le moment où je me suis dit, tiens, ça pourrait me convenir, et puis le moment où j'ai contacté une association, il a fallu que je mûrisse. Ce n'était pas un engagement à la légère. Voilà, cette nécessité de développer le bénévolat, donc j'en profite, hein, s'il y en a d'entre vous qui se sentent appelés, attirés par ça, surtout que vous ne freinez pas vos ardeurs, hein, je l'ai dit préalablement, on vous aidera dans les parcours de recrutement à savoir si c'est quelque chose qui vous convient bien. Donc vous pouvez faire déjà le premier pas. La deuxième chose que j'ai envie de dire par rapport à votre intervention, c'est qu'en tant que soignant, n'hésitez pas éventuellement à demander aux associations si vous pouvez participer aux formations à destination des bénévoles. C'est possible, dans un certain nombre de cas, des formations à l'écoute, des formations au toucher, des formations pour comprendre les mécanismes relationnels qui se jouent dans ces situations-là. Et ça a une vertu tout à fait épatante, c'est que, alors c'est moins dans votre cas, mais ça pourrait le devenir, quand on a appris ensemble, quand on s'est formé ensemble, on travaille autrement après, ensemble. C'est complètement différent que chacun apprenne dans son coin et qu'ensuite on essaye de faire une recette où la mayonnaise prend plus ou moins bien. On accroît les chances que la mayonnaise prend quand les ingrédients ont été bien mélangés avant, et c'est le cas de la formation. Donc les formations que proposent les associations sont très intéressantes, très riches, et voilà, quand il y a de la place pour les soignants, n'hésitez pas à y aller. C'est pas toujours facile de trouver le temps pour se dégager et aller en formation, mais ça en vaut vraiment la peine.
Alors, je voulais juste...
Oui.
Simplement dire que vous avez parlé tout à l'heure du besoin de se connaître soi-même, de bien connaître nos limites pour accompagner, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ce qui m'interroge là en tant que professionnelle de santé, c'est que pour avoir très souvent essayé de mettre en place pour des soignants des groupes de supervision, on a la difficulté ou l'interrogation à chaque fois de se dire « personne ne vient ». On a toujours l'impression que c'est le truc magique quand c'est ailleurs, quand c'est pour d'autres. Et quand on les met en place dans nos services, on a la grande surprise de voir que personne n'y vient. Et puis quand on se dit « ça ne marche pas, on va les arrêter », on nous dit « ah, c'est dommage ». Donc je crois que nous avons, nous, professionnels de santé, vraiment à réfléchir sur comment on considère notre position d'accompagnant. Est-ce qu'on serait exempt de cette nécessité de bien nous connaître ? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin ? Non, moi non plus, hein, mais je me questionne. Est-ce que nous, parce qu'on est professionnels de santé, on n'aurait pas besoin de comprendre et de connaître nos limites ? Est-ce que nous, on ne serait pas tout le temps dans une position de sauveur, même quand on travaille en soins palliatifs ? Voilà, c'est juste...
Alors, l'expérience me
montre... Et toutes ces formations dont vous parlez, elles existent dans les hôpitaux. Elles ne sont pas forcément très demandées. Voilà, donc c'est juste une interrogation.
Sur les formations, je ne me prononcerai pas, je ne sais pas, c'est compliqué les motivations pour aller à la formation, il faut de la disponibilité. Sur les supervisions ou groupes de parole, l'expérience me montre que c'est difficile de monter un groupe de parole quand on est dans le même cercle, qui est en plus un cercle hiérarchique ou un cercle professionnel. Ce n'est pas toujours évident, c'est des retours que j'ai, hein, je vous les livre après, vous verrez, mais ce n'est pas toujours évident pour des professionnels de dire je vais participer à un groupe de parole, sachant que je suis avec des collègues avec lesquels je suis en relation de confiance, mais aussi avec lesquels je peux parfois être en relation un peu plus tendue. Et donc, on peut aussi réfléchir à la possibilité d'organiser des groupes de parole sur le modèle, excusez-moi de la comparaison, elle est triviale, mais des alcooliques anonymes, vous voyez, où on vient et on n'est pas forcément identifié comme étant les membres de la même équipe. Ça a son avantage, ça a ses inconvénients. Ça a aussi des inconvénients, c'est que c'est bien de pouvoir travailler en équipe. Mais en équipe, il y a des staffs, il y a tout un tas de mécanismes. Ce n'est pas la même chose. Ouais. Oui, oui, j'entends bien, il ne faut pas mélanger les...
Y a-t-il encore des questions ? Enfin, en tout cas, nous vous remercions, Monsieur Châtel, par la richesse de cette soirée. Bénévoles, soignants, enfin, autres personnes, puisqu'il n'y a pas que des soignants et des bénévoles ici. On a vraiment eu beaucoup de chance ce soir d'avoir cet apport. Et c'est vrai que, soignants ou bénévoles, on est vraiment très... Enfin, ça nous engage d'accompagner. C'est pas n'importe quoi.
Merci à vous de m'avoir accueilli, parce que vous voyez, je suis toujours heureux de pouvoir partager avec plein de gens des choses qui me tiennent à cœur. J'en ai parlé de cette manière-là. Et voilà, merci de m'avoir donné cette occasion.
Merci. Allez, au revoir.